Pour moi, la lutte électronique, c'est vraiment quand tu vas rentrer dans le signal et dans le son, dans l'audio.
Okay.
Je pense que si tu dis lutte électronique, que moi je fais les luttes électroniques, il y a deux chances qu'il s'énerve. Et franchement, je lui en voudrais pas du tout parce que je me définis pas comme tel. Je pense que c'est autre
chose. Dommage, ça fait bien sûr un profil LinkedIn.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Je suis avec Daz. Comment ça va, Daz?
Ça va et toi, Salman? La pêche?
Écoute,
ou quoi?
Tout va bien, tout va bien.
Ça fait longtemps, hein?
Ben, ça fait quelques temps qu'on n'a pas enregistré.
Pour les gens, ils ont l'impression que ça fait 15 jours, mais pour nous,
exactement,
ça fait un mois, je crois.
Il y a 15 jours, normalement, ils ont eu un épisode, l'épisode avec Arthur H.
Tout à fait.
Voilà. Bel épisode.
Très bel épisode, comme tous les épisodes qu'on fait.
Bah, on essaie, en tout cas, ouais.
Et alors, justement, là, on va faire un, je pense, très bel épisode.
Oui.
Encore aujourd'hui.
Ouais.
Mais est-ce que on dit de quoi on parle ou est-ce qu'on laisse les gens essayer de comprendre le sujet au fur et à mesure de la conversation?
C'est
intéressant. Zéro description.
Tu veux perdre,
Non, juste on va voir si vous êtes attentif.
Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un épisode un peu geek?
J'aime pas ce terme.
Ouais.
Parce que je trouve qu'il a été complètement dévoyé.
C'est vrai.
Maintenant tu joues à la Switch et t'es en train de geeker, tu vois.
Mais là il est un peu adapté pour aujourd'hui, non?
Ouais, un peu nerd.
Ouais.
Dire.
Ouais, parce qu'on va quand même parler. On est avec Xavier, on est avec Romain. Coucou les gars, ça
Salut
va
les gars.
Xavier.
Bienvenue.
Ben oui, Xavier Garcia, qui est notamment derrière la boîte Hacking Toys. Et Romain Berguin. Alors Romain, toi t'as Playback Solutions, t'as Access Factory, d'où ton studio. Bon, en gros, Daz, Xavier et Romain, ils travaillent dans la musique live notamment.
Mais dis-moi plus, Salman.
Et surtout, c'est des aspects techniques autour de la musique live.
Mais dis-moi plus, Salman.
Et c'est un truc qu'on a encore assez peu exploré, tu vois.
C'est pas exactement les aspects techniques.
Ah, en partie.
Parce que les aspects techniques, ça serait genre, quel câblage pour brancher des enceintes et tout. Je crois qu'on n'est pas là. On est là.
Ça peut. En gros, l'idée dans cet épisode, ça va être hyper intéressant parce qu'on va parler un peu des manières modernes de faire du live, justement. Mmh. Notamment lorsque l'ordinateur est vraiment au cœur de la pratique artistique et du spectacle. Et, parce que tu vois, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'artistes qui jouent des instruments ou utilisent des effets qui proviennent d'un ordinateur. Ça, on le sait, tu vois.
Ah bon?
Donc, ils vont avoir besoin de contrôleurs, etc. Et là, ils vont aller voir Xavier. Parce que Xavier, tu vois, il fait des contrôleurs et sur mesure avec les artistes.
Ça veut dire que c'est pour des artistes qui ne sont pas satisfaits de la tétrachée de contrôleurs qui existe actuellement dans le commerce.
C'est une question très intéressante. On va pouvoir en parler avec Xavier, effectivement. Et Xavier, c'est des mécontents qui viennent te voir en général?
Non, c'est pas forcément des mécontents. T'as une envie d'avoir un matos qui est adapté à la musique que tu joues. Donc, tu veux tel bouton ou tu veux. Donc, c'est plus une question d'ergonomie.
Ouais.
Déjà, il y a plus ça. Et puis, de visuel, quoi. De direction artistique. Qu'est-ce que tu veux montrer sur scène? Comment tu veux te présenter au public? Et à quel point tu places tes instruments au centre de ton live ou pas? Ça peut aussi être très discret. Mmh. Donc, ouais, il y en a plein des contrôleurs MIDI. C'est souvent des petites boîtes noires et tristes, en plastique, avec peu d'informations dessus. Voilà.
Et il y a un autre aspect de la musique, c'est que donc voilà, il y a cette idée qu'il y a de l'ordinateur, etc. Et puis il y a aussi quand même beaucoup de live aujourd'hui où les artistes font appel à une équipe dans un domaine qu'on appelle le playback. Et là, Romain connaît bien pour en fait. En live, il va y avoir des parties séquencées en amont. Il va y avoir besoin d'envoyer des stems, des parties de musique préenregistrées, etc., qui vont pas être jouées forcément en live, mais qui doivent être parfaitement synchronisées, parce que alors il y a plein d'autres équipes, il y a la lumière, machin, etc.
C'est un petit écosystème.
Ça doit être un travail de fou.
Mais ne risque-t-on pas de nous aliéner la partie de notre auditoire qui va nous dire dans les commentaires, car je les préchote tous un par un, bien sûr, non, c'est pas de la musique live, le vrai live, c'est jouer sur place. Est-ce que quelque part, on se dirige pas là vers une émission que je qualifierais de polémique?
Eh bien, non, polémique, non, c'est pas notre genre. Par contre, c'est vrai qu'on pourra en discuter avec Romain.
Est-ce encore du live si tout est préparé en amont?
Mais c'est une vraie question, ça, effectivement, dont on peut parler. Moi, bon, je spoil un peu, mais par exemple, il y a des pratiques hybrides en réalité, tu vois. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, mais Romain nous donnera son regard.
Avec plaisir.
Bon, ça va être passionnant de parler de tout ça. Je le disais un peu geek, mais surtout, la musique live aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui entoure la musique live? Et ça, c'est un truc qui peut toucher tout le monde. Donc, j'espère que nos auditeurs vont apprécier.
Ouvrez vos chakras, les gars.
Ouais.
Je me préviens parce que bon, je vous connais.
Xavier, est-ce que vous voulez bien vous présenter d'ailleurs, Xavier, Romain, rapidement
Allez, je
peux commencer. Vas-y, Romain Berguin, vas-y.
Romain, donc, premièrement musicien,
ouais.
Producteur aussi, donc réalisateur de musique. J'ai mon studio, j'ai toujours travaillé, on va dire, autour de la musique, que ce soit d'une partie plus geek ou nerd, en fonction de comment on veut le qualifier. Toujours un peu à chercher des solutions à des problèmes, de se dire, ah tiens, mais là, en fait, je suis face à un sujet qui potentiellement nécessiterait d'aller creuser un peu sur une idée, une solution. Donc en fait, toujours d'aller chercher un peu les outils qui existaient. À une époque où c'était un peu aussi le début de YouTube, forcément, parce que bon, grâce à ma trentaine, forcément, mon adolescence a été passée un peu devant un ordi. Donc voilà, puis autour de la musique, toujours à accompagner un peu des projets, soit en live, aussi en studio, et puis par la force des choses, un peu de faire avancer tout ça.
Ouais. Et on peut dire, effectivement, tu as quand même cette spécialisation autour du playback, c'est vraiment un des aspects importants dans ta carrière, dans ton travail.
On va dire que ça l'est devenu par la force des choses aussi, vu qu'on va dire qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas des métiers qui étaient forcément très développés. Forcément, le fait de s'intéresser à l'informatique, d'avoir aussi des connaissances musicales, de faire aussi un peu de direction musicale, de jouer des claviers qui sont forcément toujours un peu apparentés à l'informatique, en tout cas de plus en plus. Donc forcément, ça m'a amené à devoir trouver des solutions au sein des projets pour comment mettre du backing track, comment réfléchir à des solutions pour l'encoder, comment faire en sorte que ça fonctionne aussi en équipe, avec un process, avec une timeline.
Donc le backing track, c'est ce que toi t'as appelé le playback en fait, c'est le...
Non, c'est un peu plus large, le backing track est un des éléments du playback, si je dis pas de bêtises.
Je dirais que le playback est plus une discipline, un métier. Le backing track est plus une partie isolée qui est en gros le fait d'avoir de l'audio qui va tout simplement mis sur une timeline et diffusé, au même titre en parallèle que le peut être un timecode, de la synchro MIDI, de la synchro de data, en tout genre, de l'image, mais en général que nous on vient contrôler de manière externe. Donc en gros, le playback pour moi est plus une partie vraiment de la définition d'un métier en fait finalement. Je qualifie pas Ableton comme un métier. Souvent on nous dit « Ah mais tu gères Ableton et tout ça ». C'est un outil qu'on utilise parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que dès qu'on va parler de playback, il y a aussi une logique de contingence, de responsabilité. Et on va se retrouver face aussi à des contextes où il y a des problèmes à gérer, avoir un show, d'avoir un problème technique.
Parce que tu parles d'Ableton Live, donc qui est ce logiciel qui permet à la fois dans un studio de faire de la musique, de s'enregistrer, c'est un séquenceur, etc. Mais comme son nom l'indique, live, il est aussi fait pour la prestation live, et notamment, vous pouvez programmer tout un show dans live. Quoi.
Totalement, c'est vrai qu'avec le temps, on a commencé à développer des outils aussi un peu custom, qui sont finalement un peu la volonté à la base d'Ableton, qui est de donner un outil, on va dire, avec un cœur assez ouvert par la partie Max for Live. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé sur Ableton, je connaissais pas du tout Max. Je pense qu'on a tous commencé en se disant « Mais qu'est-ce que c'est ce truc avec des câbles un peu partout ?» Puis par la force des choses, de commencer à ouvrir un peu des outils, de pouvoir se former aussi en interne, ce qui est quand même la grande force de Max. J'invite les gens à vraiment ouvrir des patchs et à regarder un peu ce qui se passe dedans, parce que j'ai un peu démystifié le sujet avec le temps. Parce que c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était impossible de prendre 3 ans de ma vie, d'arrêter et de me dire que j'allais faire que ça pour pouvoir arriver à faire des patchs. Finalement, on arrive
Je précise d'ailleurs, parce qu'il parle de Max for Live, pour ceux qui ne voient pas. En gros, c'est au sein d'Ableton Live, on peut, je sais pas si on peut dire coder, mais en tout cas, on peut créer des outils. On peut coder aussi. Bien et sûr. Donc, créer ses propres outils intégrés à Ableton avec on peut dire le moteur d'Ableton d'une certaine manière.
On peut même créer des plugins, tout simplement. Ouais. À la base, en fait, Max n'est pas Max for Live. Max est une licence autonome qui vient à l'époque de Pure Data, etc. Notamment un développement par l'IRCAM, etc. Et en gros, l'idée, c'est qu'ils ont dès le départ intégré, en fait, Max à Ableton pour laisser justement les portes ouvertes à du développement qui puisse gérer en fait toute forme de data, que ce soit de l'OSC, du MIDI, évidemment du MIDI, de la partie vidéo aussi, de la partie contrôle, de la partie audio aussi, DSP, que moi je gère beaucoup moins. Il y a beaucoup de gens qui font des plugins aussi audio avec. Et tout ça est open source, donc forcément...
On est dans le dur, là, déjà.
Ouais, c'est pas mal.
En 5 minutes, intro, Max for Live.
Contingence.
Non, mais c'est vrai que, voilà, pour aller autour de ça, donc la partie playback, et après, du coup, la partie, évidemment, plus d'intégration sur scène et de contingence, comme je dis toujours, qui sont d'imaginer, en fonction de tout cas de figure et de situation, quelle responsabilité en fait on va engager vis-à-vis de la production pour dire bon bah voilà, si concrètement votre artiste n'est pas sur scène, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on trouve une solution pour que le show continue de fonctionner ou pas, en fait à quel degré on va placer des curseurs finalement en face de chaque problématique. Donc voilà, nous c'est un peu ce qu'on fait, on réfléchit en gros à trouver des solutions à toutes les problématiques.
Tellement de questions, ça va être incroyable, mais on va laisser Xavier se présenter.
Et je précise quand même pour Romain aussi, parce qu'il a voulu, tu vois, il se la raconte pas Romain, mais T'as travaillé notamment pour les questions de playback avec Florent Pagny, avec M, avec Mylène Farmer, Jean-Michel Jarre.
Attends, quoi, Florent Pagny du playback? Mais scandale!
Et alors là aussi intéressant, avec PNL.
Là je comprends par contre.
Ouais, voilà. Voilà, ouais. Et puis aussi, alors il y a cet aspect playback, mais il y a aussi, tu peux être directeur musical, musicien aussi tout court, notamment avec le groupe Trio, tu fais ça. T'as été l'assistant d'Éric Serra sur une date où vous rejouiez d'ailleurs la musique du Grand Bleu.
On a monté le ciné-concert, effectivement.
C'est hyper intéressant.
Ah, je me rappelle de ça.
Il y a plein d'autres trucs. T'as accompagné Justice sur leur dernière grosse tournée, si je dis pas de bêtises. Vous avez fait Bercy ensemble, notamment. Ça doit être intéressant, c'est des butées de son, je crois, Justice. Il devait y avoir des exigences assez précises et tout.
J'ai plein de questions.
Et puis, voilà, plein de grosses salles de spectacle. Notamment aussi, je crois que t'as bossé à la Défense Arena sur une date à la Défense Arena.
2019 sur la tournée de Mylène Farmer. Ouais.
Qui est la plus grande.
Enfin, c'était une tournée dans une salle, donc c'était pas vraiment une tournée. Mais...
C'est la plus grande salle de spectacle d'Europe.
Ouais.
C'est
couverte.
C'est quoi, 45 000, un truc comme ça.
Que ça arrive à 40 ans, jauge max.
Mais... 40 000, ok. T'en comptes 40 000 spectateurs dans une salle fermée, quoi.
Pour du Mylène Farmer en plus.
Après, Mylène Farmer.
Ah, bah non, mais moi, non, mais premier degré.
Folie.
Premier degré, waouh. Après, deuxième degré, waouh. Après, troisième degré, bref.
Bon, on reparlera de tout ça, ça va être forcément intéressant. Xavier, présente-toi aussi, dis-nous un peu qui es-tu.
Et je dois présenter mon CV après celui de Romain.
Non. Oh, t'as de jolis trucs aussi, ça va.
Non, je m'appelle Xavier Garcia. Je suis aujourd'hui, j'ai un studio, un atelier dans le parc de la Villette où je fabrique des contrôleurs MIDI sur mesure pour des artistes qui font surtout de la tournée live. Et je suis ingénieur en mécanique de formation. Donc j'ai commencé ce projet-là il y a 4 ans. Je suis arrivé à Paris en 2021 et avant ça, j'étais ingénieur chez Decathlon en recherche et développement. Donc je faisais des produits de sport.
Ah, c'est grâce à toi qu'on doit, parce que Decathlon,
trop fort
dans le monde, par exemple des campeurs, mais le monde entier nous envie des Decathlon. C'est un truc
très
de fou.
Fun. Hein. J'ai passé pas mal de temps là-bas.
Trop bien.
Je suis allé un peu à la montagne là, pour faire des projets d'innovation. C'est très très fun. On peut en parler parce que la démarche d'innovation, moi, elle était hyper importante pour développer ça. Donc j'ai appris beaucoup de choses à Decathlon qui m'ont permis d'avoir, un terrain fertile pour être capable de fabriquer un système modulaire, bref, qui cochait toutes les cases que je voulais. Donc j'ai commencé d'ailleurs à développer ce truc-là quand j'étais à Decathlon entre midi et deux le soir après 18h, officiellement.
On connaît officiellement aussi.
Et puis vraiment, j'ai quitté la boîte et je me suis jeté dans ce bain-là, quoi, pour essayer de convaincre des artistes que je pouvais leur fabriquer des contrôleurs MIDI qui tenaient la route, parce que je suis passionné aussi de design et c'est surtout ça qui m'intéresse dans le contrôleur MIDI, c'est faire des trucs qui ont de la gueule, qui sont aussi faciles à transporter pour la tournée, et qui tiennent la route sur scène, et puis qui pour les artistes sont intéressants en termes de d'interaction, quoi, de d'ergonomie, pour vraiment qu'ils puissent jouer sur scène et jouer un maximum.
Donc ça veut dire que ces contrôleurs MIDI, on voit d'ailleurs un exemple pour ceux qui nous regardent en vidéo.
C'est très joli.
Venez sur YouTube si vous nous écoutez. Ça c'est une de tes machines. Par exemple, tu l'as fait hier, c'est ça?
Ouais. Il va très très vite.
Tu m'as demandé de ramener un truc.
Bah ouais.
J'ai rien. Si j'ai une machine qui fait 2 mètres de haut, que j'ai beaucoup de mal à déplacer. Je crois que sa tête est pas évident pour. Elle a pas été faite pour être déplacée.
Ouais.
Du coup là, j'en ai pas en stock, donc je l'ai fait hier.
Parce que alors il y a plein d'aspects hyper intéressants dans ton travail. C'est déjà donc c'est modulable. C'est-à-dire qu'on peut tout changer à tout moment, changer les boutons, machin, etc. Ouais. C'est éco-conçu, tu fais très attention aux matières que tu utilises, ce plastique recyclé, etc. C'est une démarche, quoi, qui te tient. D'ailleurs, tu t'inscris dans une démarche que tu qualifies de low-tech, plutôt, si je dis pas de bêtises.
Ouais, en fait, je viens de là. En tout cas, moi, en tant qu'ingénieur, j'étais très tourné éco-conception et low-tech, notamment quand j'étais à Decathlon. C'est encore une fois là-bas où j'ai appris beaucoup de choses. Sur ce projet-là, j'ai pas mis l'éco-conception en premier plan, sur ce truc-là. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était... En vrai, le business model, le modèle d'affaires. Comment est-ce que j'arrive à avoir une manière de travailler qui me tienne à cœur, qui me semble être durable, sans pour autant dire que c'est de l'éco-conception parce que c'est des matériaux recyclés. C'est pas, tout n'est pas recyclé dessus, tout n'est pas éco-conçu à fond. Par contre, là où j'ai mis l'accent, c'est sur la réparabilité et sur l'évolutivité des machines, quoi. Donc pour qu'un artiste, il ait en fait une boîte, il achète la boîte et que cette boîte elle dure le plus longtemps possible et qu'il puisse la faire évoluer en fonction de son projet musical. Et c'est déjà arrivé. Et quand ça arrive avec des artistes, j'en suis ravi.
C'est-à-dire l'artiste il achète cette boîte là par exemple et il dit il me faudra un rotary en plus ou un bouton en plus et tu peux lui ajouter.
Il vient et puis je le change. Et puis ça coûte rien. Moi, j'aime bien ce modèle-là aussi. En fait, je voulais trop faire un projet où Je me sens à l'aise en tant que fournisseur de services, mais aussi en tant que je me suis mis dans la place du client en fait. Moi, j'ai toujours aimé les prestats de services qui m'étaient à l'aise, en qui j'avais confiance, et je me rendais compte que c'était avec eux qu'en fait j'ai envie de dépenser le plus d'argent. C'est vrai, enfin, non mais c'est vrai.
Merci Apple.
Non mais c'est vrai. Une personne en qui t'as confiance, t'as envie de lui confier des projets aussi. Mmh. Ouais, du coup, en fait, c'est un truc que tu peux garder à vie si tu veux. Le midi, ça fait 40 ans que ça existe. On va voir combien de temps ça va durer.
On précisera d'ailleurs en quoi vraiment consiste le midi. Mais
ah ouais, on va aller à ce niveau-là.
Ouais, quand même, rapidement. Okay. Non, mais quelques bases, ouais, sur le principe.
Après, on fera le TCP/IP aussi. Et puis, la notion de DNS, c'est vachement important.
Oui, restez, s'il vous plaît, restez dans cette émission. Ne coupez pas. Non, je précise aussi quand même, Xavier, parce que t'as parlé de ta démarche, elle a convaincu des artistes, de nombreux artistes avec lesquels t'as travaillé. On pourrait citer Solwax, par exemple, dont on a parlé dans l'épisode sur la Bloghouse avec Maxime Delcourt.
Ah ouais, j'ai entendu.
Ouais, trop bien. T'as travaillé avec Fred Again, avec Polo and Pan, Polo and Pan. Bon,
les deux fonctionnaient.
Ils nous ont dit que les deux marchent. Ouais. Offenbach, bon, plein d'autres, et beaucoup aussi de musiciens un peu moins connus, un peu moins populaires. Mais t'accompagnes vraiment tout le monde, quoi. C'est pas, tu dis pas genre non, toi t'es pas assez connu.
Non, de toute façon, j'ai toujours un projet après l'autre. Ouais. Et j'en refuse assez peu des projets.
Est-ce que t'as déjà proposé de te payer en visibilité, par exemple?
Non.
Okay. Genre Solwax, ils t'ont pas dit attends, sois déjà content de travailler avec nous.
Pas du tout. Franchement, Solwax, c'est une des meilleures expériences de travail, je pense, au contraire. Ouais. Mais non, par contre, ça arrive qu'il y ait des artistes avec des moyens plus modestes qui, par exemple, sont indépendants. Mmh. Et donc, là, on va trouver des moyens de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve.
Mais ça veut dire que quand l'artiste il vient de voir, il sait déjà à peu près ce qu'il veut, ou alors il dit j'ai entendu dire que tu pouvais faire des choses, et en fait ils arrivent en mode explique-moi déjà ce que tu fais et j'essaie d'ajuster mon besoin, ou alors ils arrivent avec un besoin genre ouais j'ai besoin de une machine avec 10 boutons, 3 potards. C'est quoi le client type, tu vois, qui s'adresse à...
Alors il y a de tout, mais le client type, il sait quand même bien ce qu'il veut. Okay. Déjà, et puis il arrive avec un tableau d'inspiration, il arrive sûrement avec un sketch d'une scénographie déjà imaginée, un dessin. D'accord.
Tu veux dire que c'est souvent dans l'optique du live, ouais, et que donc il a une esthétique liée à son live en tête. Et
ouais. En fait, l'album est en train d'être terminé, où il est sorti. Il y a des dates qui sont déjà bookées. Le live, il est dans 2 mois.
Ah ouais.
Ouais, ça c'est le client type. Hein. C'est est-ce que tu peux me faire un truc en un mois?
La classique.
Classique. Franchement, ça c'est classique. Mais on aime bien. Et du coup, on bosse un peu dans l'urgence. Et donc ça, c'est ce qui arrivait assez souvent. Et ça, c'est pour le pur custom, qui est pas forcément le modèle modulaire. Donc là, devant nous, on a le modèle modulaire. J'ai commencé par ça. Parce que c'était aussi un moyen de dire aux artistes qui savaient pas exactement ce qu'ils voulaient de vous inquiétez pas, partez avec un truc et puis dans 2 semaines ou 3 semaines, on le change.
Il y a un cadre standard, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est mon cadre vraiment standard, qui existe sous plusieurs différentes tailles. Mais sinon, maintenant, ce que je fais le plus, enfin, ça, j'en fais de moins en moins. Ce que je fais le plus maintenant, c'est du vrai custom. Mmh. Où l'interface est fixe, elle est figée.
Typiquement, t'as dans la main, là, un truc, par exemple.
Ouais, ça, c'est un proto des potentiomètres qu'on a fait pour Solwax.
Donc c'est juste un bouton qu'on peut tourner, quoi.
C'est juste un potard. Hein, c'est juste un bouton, sauf qu'il est très lourd. Et j'en profite pour
il
le
est
dire.
Énorme aussi.
Tout ce qui est bouton, ce qu'on voit sur cette machine, tous les potards qu'on tourne, ou les faders, même on voit les petites billes qui sont juste là. Ouais. Tout ça est fabriqué par un pote à moi qui est spécialiste de l'impression 3D, avec qui je collabore depuis maintenant 2-3 ans, qui travaille super bien. Il s'appelle Arthur. Et Biture Factory. Et c'est lui qui a fait tout ce travail-là pour Solwax. C'est marrant parce que ils m'ont demandé des gros potards. Solwax, je leur ai fait des gros potards. Et ils m'ont dit non.
On veut des gros potards.
On l'a fait. On a mis du temps à comprendre. Hein. Ça a mis du temps à monter au cerveau pour moi que c'était vraiment des gros qu'ils voulaient.
Ils t'ont dit pourquoi d'ailleurs? C'est une pure question esthétique.
C'est ergonomique. Ouais, c'est ergonomique. Ils aiment bien tourner des gros trucs. Et non, vraiment, on a fait 4 itérations avant qu'ils me disent je crois que tu n'as pas compris, Xavier. On veut des très gros potards. Et on a fini par faire ceux-là.
Forcément lesté un peu pour que...
Ouais, ils sont hyper lourds, et puis surtout on a mis du temps à trouver, alors c'est pas le bon potentiomètre qui est derrière, ça c'était juste un proto, mais on a mis du temps à trouver le potentiomètre qui est derrière. Donc là t'as le... En anglais on dit knob pour la partie qui est au-dessus, derrière c'est le potentiomètre, donc il y a vraiment ces deux parties dans un potard. mais la partie potentiomètre qui est derrière, ça aussi c'est une science hein, pour trouver le bon. Donc moi j'utilise tout le temps les mêmes dans mes machines, j'ai tout standardisé pour que ce soit justement évolutif et facilement réparable, etc.
Remplaçable. Ouais.
Et puis surtout pour que je puisse bosser rapidement parce que j'ai tout mon stock d'une seule référence, ça va vite quoi. Mais pour Solwax, ben en fait ce que j'avais déjà à dispo, ça leur convenait pas parce que c'était trop souple. Ah et oui. voulait se rapprocher des gros boutons de volume des vieilles Chenify.
Ouais.
Très quali, vintage, années 60-70, genre, c'était ça nos références. Du coup, on en a testé une vingaine de potentiomètres avant de trouver le bon.
C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne course, c'est même pas qu'une question de l'amplitude, c'est vraiment le feeling.
Le feeling, le couple,
ouais.
La force que tu dois mettre pour le bouger. Parce que plus ton potard est grand, plus c'est facile de le tourner, tu vois. Celui-là, il est hyper souple, limite, il bouge tout seul. Quand t'es sur un plus petit bouton au-dessus, là, t'as plutôt une bonne sensation. Mais dès que t'as ce bouton-là qui devient large, ben en fait, t'as beaucoup plus de force pour le tourner, quoi. Donc, une vraie science, on a passé deux semaines à trouver le truc, quoi.
Ouais, c'est ouf.
Il y a un petit rapport de résolution aussi.
Ouais, cool, qu'est-ce que c'est ? Dis-nous.
D'avoir un bouton qui est le plus petit possible. En un coup, tu peux le mettre au max.
Oui. Ouais.
Alors évidemment un plus gros bouton a plus d'inertie, donc forcément tu peux être beaucoup plus précis sur certains réglages plus fins.
C'est quoi d'ailleurs la résolution d'un potard comme ça? C'est 32 000 d'un côté, 32 000 de l'autre, ou 4096, ou...
Là ça reste de 127, l'analogique, hein. Donc c'est en midi, en tout cas c'est du 127 pas.
D'accord.
Après, donc c'est le nombre en fait de
divisions entre la valeur minimum et la valeur maximum.
Donc sur le volume, ça sera divisé, t'as dit combien?
128 positions.
128 positions pour vraiment affiner ton volume.
De 0 à 127.
Okay.
Mais après il y a des solutions pour aller plus loin, avec plus de résolution, donc 255, en passant au-delà. Potentiellement plus, mais là ça demande d'avoir des alimes très précises, parce qu'en fait c'est juste une mesure finalement de la quantité de vol, du courant qui reste en fait une fois que la modulation a été faite. Donc forcément ça demande d'être extrêmement stable, parce que du coup plus on va être précis, plus on va avoir des mini modulations. Donc ça demande en fait que le bouton soit vraiment d'une extrêmement bonne qualité, et donc forcément ça coûte très très cher.
Trop bien que tu sois là, tu vas pouvoir répondre à toutes les questions. Je suis pas capable de répondre. C'est génial.
Mais du coup, alors je sais pas si on a le droit d'évoquer la tarification.
Si tu veux.
Par exemple, un produit comme ça standard avec donc tout plein de boutons, des potards dans tous les sens, de faders. Ça coûte combien? Tu vends ça combien?
Celui-là, le standard, je le vends à 750 hors taxe.
D'accord.
Mais avec évidemment toujours la possibilité de le faire évoluer quand tu veux, quoi. Et après, ça peut monter en fonction des options. Si tu veux des petites gravures, des trucs spécifiques, un crossfader par exemple à la place d'un fader, où ça va me demander un développement spécifique, ça peut être en plus. Est-ce que tu veux des panneaux en bois sur les côtés ou mes trucs standards? Voilà. C'est un peu comme quand t'achètes une Porsche, toute proportion gardée. Il y a des options. Voilà. Et après, j'ai des modèles plus petits. Mon modèle le plus petit, il est à 350 €.
D'accord. Okay. Et en termes de taille, c'est quoi? C'est la moitié de celui-ci ou...
Ouais, c'est un carré qui fait 4 par 4 blocs.
D'accord.
Donc là, c'est que des blocs qui font à chaque fois 4 cm par 4 cm. C'est con, mais j'ai mis 6 ans à trouver ce standard. Hein. J'ai fait pas mal de recherches avant. C'est pas évident de trouver le bon truc pour que tout passe bien. Et je me suis basé sur un projet qui existe, qui a été créé en Belgique il y a 15 ans, qui s'appelle Open Structure. Et c'est un designer, Thomas, qui a défini une grille de conception en invitant les designers à créer des objets dans cette grille pour que tout soit intercompatible. Donc hyper intéressant, et j'ai découvert un peu sur le tard. Et quand il a eu cette idée, c'est toute simple de faire du 4x4. Parce qu'avant, j'avais testé le modèle modulaire Eurorack. J'avais testé les mécanos, les Lego. Enfin, j'en ai testé plein avant de me dire, ah non, c'est ces proportions qui fonctionnent pour un instrument de musique et pas d'autres. Donc ouais, Open Structure, super projet, je me suis basé là-dessus. 4x4 parce que c'est facilement divisible, et parce qu'il y a beaucoup d'éléments standards qui viennent là-dedans aussi, notamment toutes les vis, tous les composants qui viennent dedans, mes boutons ils passent pile à l'intérieur. Donc j'ai eu pas mal de chance sur ce sur ce système-là. Ouais.
Ce que je vous propose, c'est on reviendra un peu plus en détail sur vos activités et tout, mais j'aimerais bien qu'on fasse juste un petit topo sur, je parlais de live moderne, live un peu d'aujourd'hui.
Encore du live, même, pouvons-nous poser la question?
Effectivement. Vous, à travers vos expériences, etc., qu'on discute un peu de comment se passe un spectacle aujourd'hui. Je sais pas, soit on se base sur un exemple, ça peut être par exemple une date de Justice, j'en sais rien, un truc comme ça. Globalement, demain tu fais un spectacle. Tu commences quand même à avoir une audience un peu importante, t'es dans une salle où t'accueilles beaucoup de gens, etc. Il va y avoir beaucoup de métiers impliqués, déjà, dans un live comme celui-là. Est-ce qu'on peut un peu juste répertorier rapidement les grands métiers un peu qui vont devoir être impliqués dans la création d'un spectacle comme celui-là?
Je pense que si on part sur un rapport d'échelle, on va parler du live le plus petit finalement à construire, qui serait du coup juste un performeur, donc un artiste qui arrive donc avec soit une guitare, soit un clavier, un micro, un ordi avec un contrôleur. Donc ça pour moi c'est la config la plus minimum. On pourrait pas imaginer, enfin peut-être un jour avoir un live avec vraiment personne, mais bon je crois pas que ce soit finalement le sujet le plus intéressant. Après si on devait imaginer une deuxième personne, ça va être des choix plus d'économie et de production, de se dire bon bah quel est le rapport le plus important ? Est-ce que c'est d'avoir un ingé son qui va être là pour se porter garant de ce que les gens finalement vont entendre ? Ouais. Est-ce que ça va être plutôt quelqu'un de responsable de la partie visuelle, donc light designer ou opérateur lumière, ouais, ou peut-être un peu hybride qui pourrait faire les deux ? Je parle vraiment de rapport de petite échelle. Mmh. Et en fait, finalement, à chaque fois, c'est un peu, tiens, dès que ça va grossir, quelle est la personne, quel est le maillon qu'on va rajouter ? Finalement, en fonction finalement de l'écosystème du projet, en fonction de son économie aussi. Et après, en partant un peu sur tous les paliers possibles, on peut arriver à des productions où il y a 200 personnes sur une date. Sur des tournées de stade, par exemple, où sans compter les personnes qui sont en plus tous les jours, qu'on appelle notamment des... Je perds mes mots, mais ce n'est pas grave. Toutes les personnes qui sont là, en plus de l'apport production, qui sont là vraiment sur place, sur chaque ville, pour pouvoir aider notamment à toute la manutention, etc. Mmh. Forcément, ça amène encore plus de monde sur une production pour faire un stade où, je sais pas, on pourrait imaginer peut-être entre 300 et 400 personnes.
Juste, oui, mais alors. Tu parlais juste, une toute petite précision après Das, je te laisse poser ta question. Tu disais, par exemple, il arrive seul, il a un peu de moyen, un tout petit peu, est-ce qu'il met plutôt sur l'ingé son, l'ingé lumière? S'il n'en a pas du tout, ça va être par contre un résident de la salle, par exemple? Et comment voilà, ça se passe?
Ouais, c'était ça, okay. Exactement. Alors après, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a possibilité d'essayer de donner un cahier des charges, en tout cas, avec une setlist, des informations, mais forcément, on est tributaire de la personne en accueil qu'on ne connaît pas, où on peut avoir des très bonnes surprises comme des très mauvaises. Donc après ça, malheureusement, c'est un peu la roulette. Donc forcément, le but en fait pour moi d'agrandir une équipe sur une production, c'est de pouvoir garantir finalement en fait une synthèse d'un show qui a été écrit à la base et d'une qualité, et de pouvoir faire en sorte qu'en fait à chaque fois, ce soit restitué de la manière dont ça a été envisagé et de la manière surtout où l'artiste l'envisage avec la production qui du coup vend aussi quand même une place à un prix et le but c'est quand même que ce spectacle
il faut que quel que soit l'endroit où l'artiste se produit, il faut quand même qu'il y ait un truc qui se tienne à peu près, qui soit homogène d'une date à l'autre.
Donc en fait tout ça c'est un peu des rapports auxquels nous on fait un peu face tous les jours vis-à-vis aussi de ce qu'on propose sur la partie playback, qui est aussi de dire bon bah aujourd'hui nous on est capable de pouvoir un peu créer toutes sortes de choses, parce qu'on peut travailler avec un peu toutes sortes d'usines ou de gens ou designers, etc. Mais c'est pas vraiment nous qui prenons les décisions. Nous, on est là plus pour mettre en avant un peu plein de solutions et de pouvoir laisser les gens décider. Et donc, c'est notre rôle finalement de pouvoir les aiguiller aussi en leur disant, bon, bah, en fonction de votre rapport de, encore une fois, contingence ou si jamais il y avait un drame qui devait se retrouver sur scène, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour que le show puisse continuer, ou est-ce qu'à un moment vous vous dites, bon, en fait, si demain il y a une tempête et que la scène doit tomber, est-ce qu'on est prêt à monter une deuxième scène ou est-ce que finalement on va se dire on accepte qu'on est battu et voilà, c'est à quel niveau? Donc je parle évidemment de choses un peu exagérées, mais c'est un peu valable en fait finalement pour plein de facteurs.
Mais comme vous arrivez en fait, je dis vous parce que vraiment, on parle vraiment de machines assez modernes finalement, est-ce que vous vous heurtez parfois à une salle qui est pas du tout équipée pour, je sais pas moi, gérer trois ordinateurs sur scène ou des choses où les salles qui sont normalement pour du spectacle vivant, des instruments éventuellement, ce genre de trucs, mais pas forcément pour t'arrives avec ton routeur, un fibre optique et tu dis bon les gars, comment je fais pour monter mon réseau
Faut dire que nous on n'est pas dépendant d'énormément de paramètres. Ouais. Nous à partir du moment où finalement on a
l'électricité,
le contrôleur, la scène. L'électricité.
Stable.
Ouais. Bah, stable, enfin, en tout cas, on le demande.
Ouais.
Après, on a plein de solutions aussi pour faire en sorte que ce soit stabilisé, de vérifier les choses. En fait, pour moi, notre métier n'est finalement que d'anticiper des choses, de se tenir responsable.
Mais c'est-à-dire que tu arrives avec des onduleurs, par exemple?
Totalement.
OK. Ouais,
on a tout qui est ondulé, qui est filtré, évidemment. Ouais. Encore une fois, c'est des choses qui sont intégrées dans des kits qui sont assez haut de gamme, en tout cas le plus haut de gamme de ce qu'on fournit, dans le rapport où tout est prévu pour avoir une solution si panne.
Okay.
Après, on peut aussi imaginer des cas où, si vraiment il n'y avait aucun budget en face, designer un setup qui, du coup, soit beaucoup moins important en termes de ressources. Mais par contre, ce n'est plus notre responsabilité qui est engagée. Si jamais il y avait un problème électrique, on dira... nous, on était capable de répondre à cette situation. Mais par contre, les moyens n'ont pas été mis en place. Donc forcément, bah.
En fait, par exemple, dès qu'on a des projets qui commencent à être assez costauds dans des grosses salles, enfin, même assez vite se poser la question de la redondance. Et on l'a pas dit explicitement, mais les kits de Romain, ils ont toujours deux ordis qui tournent en parallèle.
C'est même au-delà de deux ordis, en fait, c'est même, c'est vrai que beaucoup parlent de main et de spare, donc système principal, système secondaire. Nous, dans notre logique, il n'y a pas de main, il n'y a pas de spare. C'est vraiment deux systèmes totalement identiques qui sont tout le temps en train de runner en même temps. On sait même jamais lequel va jouer, parce qu'en fait, c'est un peu, on a en fait un retour d'info qui nous dit, bah là, c'est le A qui est en train de jouer, là, c'est le B qui est en train de jouer, ce qui nous, finalement, nous place dans une logique où, si on a un problème avec une interface, un câble, souvent, c'est jamais l'ordi qui va avoir un vrai souci, parce que c'est toujours pareil, à partir du moment où on sait ce qu'on fait, qu'on sait configurer les choses et qu'on envisage un peu tous les risques, et surtout qu'on note, vis-à-vis de notre expérience, un peu tous les cas, vis-à-vis desquels on a eu évidemment des petits soucis sur des mises à jour, des choses, etc. Forcément, ça nous amène à envisager des problèmes qui sont finalement jamais sur l'interne du kit, mais plus un câble. Ça peut être même un bout d'un contrôleur parce qu'il a plu, qu'il y a une goutte qui est tombée dedans. Ou comment on envisage en fait le fait de pouvoir couper la communication, je sais pas moi, d'un contrôleur qui aurait par exemple un bouton avec de l'eau qui fait que ça bouge, de pouvoir se dire bon bah là on décide de couper ce contrôleur parce qu'on a analysé qu'en fait il y avait un souci, d'avoir la possibilité de répondre à ça, de pouvoir bloquer la réception de la donnée, d'aller le remplacer en chaud si potentiellement il y avait besoin.
Tout ça avant le drop. Hein.
Évidemment, tout ça avant le drop. Et là, il faut bien éteindre la lumière, courir très vite. Donc voilà, après tout ça...
Alors attends, parce que on a dit que évidemment il y a plusieurs échelles. En fonction du budget, de l'ambition, etc., du projet, on peut faire intervenir différentes personnes. Alors évidemment, les premiers auxquels tu as pensé, c'est l'ingénieur du son, ensuite quelqu'un pour s'occuper des aspects plus visuels, lumière, etc. Ensuite, alors là, on parlait plus des aspects playback déjà. À quel moment on fait intervenir quelqu'un qui spécifiquement va se dire, ok, alors attends, dans ton projet musical, il y a des moments où tu dois avoir tel son qui doit apparaître à tel moment, tel violon qui se rajoute, parce que sur le concert...
Là, c'est plus de la direction musicale, donc.
Ok. Alors attends, vas-y, explique-nous.
Alors c'est vrai que pour moi, si on parle d'un show, pour moi, le show est déjà
en
partie opérationnel. C'est-à-dire qu'il a été préparé, la création a été opérée, il y a eu des répétitions. Donc pour moi, il y a entre guillemets deux équipes. On va dire qu'il y a une équipe qui est plus responsable de la partie créa et une partie qui peut aussi être hybride et continuer à suivre.
Pour l'opérationnel.
Pour l'opérationnel, qui va être juste comment faire que cette créa qu'on a actée, qu'on a validée à la fin d'une résidence, puisse monter tous les jours et se démonter tous les jours pour que du coup les gens puissent en profiter.
Quand je prenais l'exemple des violons, en fait, c'est on peut pas faire venir sur scène. On a prévu dans notre show qu'il y a un moment des violons, mais bon, on va pas les faire venir sur scène. On a une bande son préenregistrée, mais il faut par contre que ça arrive à tel moment dans le show. Là, par contre, ça va être ton rôle, non, avec le playback.
Totalement. Et puis pas que le mien, parce qu'en fait, ça va être aussi. Il peut y avoir plein d'éléments. En général, les artistes avec qui on travaille sur la partie playback aujourd'hui, c'est souvent des artistes de musique électronique. Nous, on a un peu décidé aussi avec Playback de se focaliser vraiment sur ces musiques-là, parce que c'est aussi des musiques où on avait un peu plus d'intérêt à devoir trouver des solutions plus techniques, de contrôleurs, d'update de session, d'essayer de trouver des solutions justement pour des instruments, parce que finalement, en fait, on est plus en conception de l'instrument du show que juste d'une partie de deux ordi qui ferait juste du backing track, comme on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu moins intéressant, ça nous arrive de le faire aussi, mais c'est vrai que...
Oui, c'est tout le morceau derrière, juste qui est diffusé, début à la fin.
Tout ou moins, ça peut être en rajout aussi, ou en vraiment backing tracks derrière le groupe. Après, tout existe. C'est vrai que, voilà, aujourd'hui, en tout cas... Nous, on va plutôt travailler avec des artistes qui ont déjà fait une synthèse de leur musique, une synthèse de leur show, parce que forcément, artistes de musique électronique, besoin de moins d'infrastructures en termes de musiciens, en termes de direction musicale, d'arrangement. Après, je dis ça, ça peut très bien arriver de bosser avec un artiste électronique qui veut jouer avec un orchestre. Donc là, forcément, il va y avoir, pour un exemple concret comme ça, se dire, ok, donc là, on a une timeline, on a des morceaux, une setlist. Est-ce qu'on va devoir découper, par exemple, des morceaux en fonction des orchestres, enfin des parties d'orchestre jouées? Est-ce que du coup...
Enlève les pistes qui correspondent à
exactement, ça. Exactement. Une fois qu'on va arriver avec l'orchestre en répétition, bah, du coup, on va enlever les pistes qui remplaçaient l'orchestre pour que l'orchestre puisse jouer en live. Pour moi, en fait, l'intérêt de la partie playback, même si à la fin, on ne s'en sert pas en restitution, c'est de pouvoir avoir une espèce de maquette en fait, de tout le live, qui soit... Une espèce de temporalité, aussi une partie d'arrangement, et de pouvoir muter, démuter les pistes, comme on le ferait un peu quand on travaille sur un projet en album ou en studio tout simplement. d'avoir un peu ce rapport de maquette, de pouvoir se dire, ah bah tiens, là j'ai telle piste, quand lui il sera là, du coup, ça permet aussi de pouvoir maqueter des choses tout simplement.
Mais ça veut dire que, par contre, en termes d'implication dans le processus, t'es en amont complet, enfin tu bosses directement avec les artistes pour
dans l'idéal.
Mettre le live en place finalement.
C'est vrai que par la force des choses, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas de plus en plus, du fait d'aussi avoir... essayer de pallier finalement au fait d'être appelé que à la dernière minute et de devoir à chaque fois trouver des solutions alors qu'on a que un mois ou deux mois pour monter un show et de se rendre compte qu'on est dépendant d'énormément de choses qui n'ont pas été faites entre guillemets dans les règles de l'art et on se retrouve en fait à avoir énormément de détails qui sont malheureusement pas optimisés ou même la qualité du coup en prend un sacré coup, notamment sur l'audio, parce que des fois c'est pas forcément des gens qui avaient un process ou une méthode, parce que c'est des fois que des gens qui composent de la musique, pas forcément des gens qui produisent de la musique, qui n'ont pas forcément d'aptitude pour mixer aussi des choses. Donc nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver au plus tôt dans les projets, d'essayer de donner les maximums d'outils en fait à toutes ces personnes-là et d'arriver justement à fluidifier tout le workflow pour qu'on ait un joli show.
Il y a des exemples hyper intéressants. Quand tu as bossé avec Eric Serra, par exemple, pour ce ciné-concert autour du Grand Bleu, il a fallu retrouver des enregistrements de l'époque.
De l'archéologie, ça s'appelle.
Donc qui avait des dizaines et des dizaines d'années. Il fallait tout retimer pour que tout soit synchronisé parfaitement. Il faut voir, en plus, il peut y avoir, comme c'est du cinéma, il y a du 24 images par seconde, du 25, donc ça change légèrement la tonalité, puisqu'il y a quelques images. Enfin bon, c'est en amont, on doit travailler énormément les sources audio pour qu'ensuite, dans le live, elles soient le plus propres et les plus belles possibles, voire les mixer à nouveau, au moins masteriser. Alors, quoi.
Chaque exemple est un peu... Là, c'est vraiment un exemple extrêmement difficile. Parce que on parle d'une musique qui ne pouvait être jouée que par... on peut pas refaire un arrangement, on va dire, de manière orchestrale. Ça perdait tout son intérêt. Ce qui donne vraiment l'intérêt de cette musique-là, c'est de pouvoir la jouer avec les sons d'origine. Donc forcément, tous ces sons d'origine, ils étaient faits à l'époque dans des machines des années 80, enfin fin 80, du DX7, ce genre de choses. Donc on a dû retrouver un peu déjà tous ces presets, en refaire certains, les régénérer du coup pour que ce soit joué par des musiciens et trouver après une manière pour que, évidemment, tout ça fonctionne de manière spatialisée, parce qu'on s'était dit, tiens, quitte à faire les choses, autant les faire à 200%. Donc recréer tous les moteurs de reverb de l'époque, from scratch en plugin. Donc ça devait faire 600 presets à la fin, je crois.
Dans ce genre de projet, l'artiste initial, il n'a pas tout ça, lui. Il n'a pas tous les...
En fait, on parle de rapport aussi de backup et de comment les données vivent dans le temps.
Ouais.
Un projet qui a été fait en 88. Quand on arrive 30 ans après pour le faire vivre de manière un peu actuelle et dans un contexte avec les nouvelles technologies, etc.
Ouais, mais alors...
Pour le coup... Eric est quelqu'un d'extrêmement méticuleux sur ses backups et ses sauvegardes. Donc, on a pu récupérer, pour l'anecdote qui est quand même dingue, la session Digital Performer 1 qu'on a réussi à réouvrir donc sur le Mac SE de l'époque. Wow. Bon, on n'allait pas en faire grand-chose.
L'archéologie, vraiment.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'on s'est rendu compte que Steinberg avait gardé la même logique de fichier de session et qu'en réouvrant le fichier Digital Performer 1 sur une nouvelle version Digital Performer, 30 ans après, on avait les datas et ça fonctionnait.
Wow.
Et là, honnêtement...
C'est pour ça qu'il faut payer sa licence.
Ouais, honnêtement, chapeau.
On reparlera, parce que je suis sûr que tu as plein d'autres histoires folles. Xavier, toi, j'imagine que tu n'es pas le seul à customiser des instruments, etc. Globalement, les gens comme toi, vous intervenez quand est-ce que pareil, c'est très en amont, tu vois, par rapport à la préparation du live, etc. Est-ce que, à ta connaissance, il y a beaucoup d'artistes qui font appel à des gens comme toi pour vraiment avoir du système personnalisé, des contrôleurs, etc., sur scène?
Je sais qu'on n'est vraiment pas beaucoup.
C'est vrai?
Ouais, on est une poignée. Hein. On est vraiment une poignée en France. En tout cas, il y a plein de gens qui savent faire ça. Ça, c'est sûr. Enfin, un contrôleur, c'est vraiment pas compliqué. Les gens qui le font de manière professionnelle comme moi, on doit être... J'en connais un autre en France. J'en connais un autre en France. Et après, il doit peut-être en avoir un ou deux par pays. Franchement, je connais pas des masses. Non, c'est pas si courant que ça. c'était quoi la question?
Quand est-ce que est-ce que beaucoup d'artistes font appel ont cette envie, ce besoin d'avoir des contrôleurs personnalisés d'une part, et d'autre part, à quel moment du processus tu interviens?
Franchement, il y en a pas assez selon ma banquière. Ouais. Et non, mais c'est Je me dis aussi, honnêtement, qu'il y a peut-être un truc un peu de mode. Il y a un peu la mode d'avoir des interfaces comme ça qui sont custom. Il y a une vague en ce moment là-dessus.
Puis peut-être un besoin aussi. Hein.
Sûrement un besoin, on va voir comment tout ça évolue, comment la technologie
évolue. Plus en plus d'artistes qui se retrouvent à être seuls sur scène, entre guillemets,
et habiller le...
à devoir, ouais. Bah oui, habiller de manière un peu personnalisée en fonction de leur DA et tout ça.
Typiquement, les quelques artistes qui viennent te voir, en général, il y a un besoin commun, par exemple, entre les artistes. Souvent, il y a un truc qui revient, tu vois. D'ailleurs, c'est quoi, par exemple?
Bah, il y a souvent le besoin d'avoir quelque chose qui est agréable à utiliser pour jouer sur scène, donc quelque chose de visible, on a de la place aussi, souvent aussi quelque chose d'assez grand pour qu'il puisse aussi être visible par le public.
Ça veut dire que les contrôleurs du marché produits, tu vois, petits, c'est ouais. Trop petit
ils
en général.
De plus en plus petit, en plus. Vraiment,
Ableton Push là, c'est microscopique.
Oui, il y a quand même une mode aussi industrielle qui est de tout miniaturiser. Hein. On regarde les Roland qui sont devenus vraiment les Roland boutique. Puis il y a une autre série encore qui est vraiment minuscule où il y a un délire de transportabilité.
On va faire du voyage. Quoi.
Mais c'est pour faire. Oui, mais c'est du marketing derrière. C'est qu'eux, ils choisissent un certain type d'utilisateur cible et ils font un truc qui est parfait pour eux. Et tant mieux. Mais on parlait tout à l'heure de Teenage et de leur petite mini-série de mixeurs.
Bah, la marque Teenage Engineering.
C'est trop bien pour des artistes pros, sûrement pour enregistrer ou pour voyager, c'est pas fait pour du live. Donc en fait, du matos live, il en existe pas tant que ça. Mmh. Et il y a un besoin au contraire d'avoir prendre un peu plus de place. Donc à la fois pour l'artiste, lui, pour être dans le confort de jeu et d'apprécier son live aussi avant de prendre du plaisir. Et aussi, il y a un besoin et une motivation scénique de montrer, parce qu'on joue pas de la guitare, on joue pas du piano. Mmh. On peut, mais on tourne des boutons, on appuie sur des trucs. Il y a besoin de montrer qu'on fait quelque chose et qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est un truc qui revient souvent. Comment est-ce qu'on fait comprendre au public qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose? Parce qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose, pour le coup. Hein.
Oui, parce qu'il peut y avoir une période où c'était un peu du chiquet, non? Où il y avait une machine sur scène, mais en fait, elle était même pas branchée.
En fait, il y a un milliard.
Je pense qu'il y a toujours eu, et puis il y aura toujours.
Il y en aura toujours, mais il y a un milliard d'exemples différents. Et tous sont différents. Franchement, il peut tous passer sur scène.
C'est que des cas particuliers, presque.
Et ça dépend vraiment de la motivation de l'artiste. Et il y en a qui diront, bah là, je me sens pas de jouer tout ça. Et donc, du coup, je vais me sécuriser. Je vais faire que des parties qui sont assez simples parce qu'en fait, j'ai envie d'interagir avec le public et de parler, de chanter. Voilà.
C'est vrai qu'on on a un rapport de conseil aussi, nous, là-dessus.
Ouais.
Où, avec l'expérience et à la différence d'artistes qui, eux, montent un show tous les 4-5 ans, nous, c'est vrai qu'on se retrouve à en monter entre 10 et 30 par an. Donc forcément, on est dans une répétition de choses qui nous fait analyser pas mal de choses avec des récurrences. Et c'est vrai que très souvent au début, il y a un peu le premier stress de l'artiste qui monte un peu sa première tournée et qui dit non mais ça, je suis pas à l'aise, ça sert à rien de l'encoder parce qu'en fait, je vais pas m'en servir, etc., etc. Mais sauf qu'à un moment, quand on a une centaine de dates au planning, j'aime bien préciser que au bout de la 50e date. Souvent, on commence à être à l'aise et que ça peut être cool de se garder quand même 2-3 choses pour évoluer. Donc, c'est un peu souvent ce qu'on fait, nous, plus dans un conseil aussi de temporalité, de dire tous ces trucs-là, on va quand même les anticiper un peu. Parce que par contre, c'est pas au bout de 50 dates que nous, on va pouvoir retrouver forcément une disponibilité une fois que la tournée sera partie pour rebloquer une résidence, etc. Donc, souvent, on essaie d'anticiper un peu des choses. Du coup, de donner aussi un peu des idées avec toujours des sécurités. Parce que le but, c'est pas de dire à l'artiste, non, t'es obligé de le jouer à la première date.
Démerde-toi.
Donc il y a aussi plein de possibilités, finalement, de rajouter des paliers. Mais du coup, ça permet aussi d'éduquer aussi un peu les artistes dans cette logique-là, parce qu'il y a toujours un stress quand on est seul, à se dire, bah, je suis face à mon contrôleur. J'imagine que ça doit être le cas pour toi, Xavier. Ou des fois, les gens arrivent et puis, bah, ok, comment je vais utiliser mon contrôleur? Je sais pas trop. Il y a un temps aussi de réflexion et d'utilisation. Et puis souvent, ce temps-là, en fait, il est même pas passé qu'on est déjà sur scène, donc garder un peu de l'évolution aussi potentielle.
Et puis il y a un il y a plusieurs niveaux aussi d'investissement. Je sais pas quel est le bon mot pour parler de ça, mais il y a des artistes qui vont se mettre plus ou moins en danger. Il y en a qui vont se mettre beaucoup en difficulté.
D'implication, dans le.
Ouais, moi j'ai quelques exemples comme ça. Par exemple, Jersey, un duo français qui fait de la musique électronique. Ils ont tourné pendant longtemps avec 6 de mes contrôleurs. Il y a tout qui est vrai, quoi. Vraiment, les gars, ils appuient sur tout le temps. C'est eux qui ont décidé leur interface, donc ils avaient vraiment une fonction précise pour bouton. Et je pense qu'à la fin des concerts, ils doivent être vraiment épuisés physiquement et mentalement parce que
la concentration que ça demande.
Enfin, c'est du jeu, quoi.
Oui, c'est un réel instrument pour le
coup.
C'est
des artistes et ils mixent en fait tout. En fait, c'est comme
ils jouent même.
Ils jouent. Ils ont des claviers, ils jouent. Il y en a parfois qui chantent. L'exemple de Solwak, c'est un bon exemple aussi. Ils ont 3 batteries, 4 synthés sur scène. Ils ont des guitares, des synthés dans tous les sens.
Tu sais ce qu'on fait, Xavier? Parce qu'on a évoqué le Grand Bleu parce que comme c'est assez dense notre discussion, on s'écoute un petit extrait d'un morceau de la BO, tranquille, et après on revient et tu nous parles de l'expérience avec Solwax.
Génial, okay. Super.
Le truc alors, avec les dauphins là.
Romain, bah oui, attends, ouais, allez, c'est mythique. Romain, toi tu dois bien la connaître, la BO. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier que t'aimes bien sur le...
Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous n'imaginez même pas.
Oui, parce que t'as bossé dessus, quoi.
À cause de ça, c'est ou... Ah oui, d'accord. T'avais pas un king pour le Grand Bleu avant ça.
Pendant un an, je l'avais jamais vu avant qu'on se mette dessus, surtout. C'est ça qui est drôle. J'étais vacciné. J'étais pané.
Est-ce qu'il y a un morceau que t'aimes bien qui t'est resté de cette BO?
Ah, je dirais Laraya si tu l'as sous les mains.
Eh ben, absolument. On s'écoute un extrait.
Ambiance resto chinois et péruvien en même temps.
Ah oui, resto chinois.
Ah ouais, moi j'avais une ambiance très asiatique, mais en même temps.
Un peu celtique aussi, je trouve.
Ah bon?
Tu vois, ouais.
Ah bah comme quoi tout se retrouve.
Tu fais faire ça au violon et ça fait tout de suite. Un peu,
ah, mais je pense que c'est le. Parce que là c'était quoi? C'était de la flûte de pan? C'était quoi? J'ai aucune idée.
C'est un preset de DX7.
Bon, en tout cas, c'était relaxant.
Ah oui, là, je suis totalement.
On va pouvoir complètement retourner dans une discussion, là, un peu. Tu vois, c'est un peu vigoureux, quoi. C'est un peu. Alors, il faut que tu nous racontes. Parce que, donc, Solwax, on le rappelle, groupe de musique belge hyper influent, qui vient du rock, mais qui a aussi complètement influencé la scène électronique. C'est des grands érudits du son. Ils ont une collection de disques complètement fou. Ils sont passionnés de machines aussi. Ils ont un rapport au son extrêmement exigeant, j'ai envie de dire. Quand on se retrouve à travailler avec eux, on le ressent, ça?
T'as la pression, quoi, ou pas?
Grave. Alors, moi, je viens du rock. Hein. Quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de rock et de blues, et uniquement ça, et je connaissais pas Solwax. Et je me suis mis à écouter de la musique électronique à partir du moment où j'ai écouté Crack de Solwax, donc qui venait d'un album, un album qui a été fait deux fois. D'ailleurs, ils ont fait un album en rock, Any Minute Now, je crois. Et ils ont décidé de le refaire en version club. Okay. Un ou deux ans après, ils ont fait tout leur son rock en mode musique électronique. Et cet album, année 2000, au milieu des années 2000, a été hyper important. Et moi, je l'ai découvert au début de mes études, au début des années 2010. Je suis tombé complètement fan de Solwax. Et quand j'ai creusé, j'ai compris qui c'était. J'étais encore plus impressionné et amoureux de leur musique et de tout ce qu'ils faisaient autour, donc de leur label, de tous leurs projets. Ils ont commencé leur carrière comme moi je suis né, donc vraiment c'était il y avait une génération, quoi, clairement une génération d'écart, et je suis toujours très influencé par la musique de Solwax. Donc quand j'ai commencé mon projet, pour moi bosser avec eux c'était l'aboutissement final. Si j'arrive à bosser avec Solwax, c'est bon, je peux prendre ma retraite. Et donc ce que j'ai fait, c'est que ils ont annoncé une tournée. Moi j'ai commencé le projet en 2023. J'avais des prototypes qui ressemblaient à peu près à ça déjà à l'époque, et ils ont annoncé une tournée. Donc c'était en septembre 2023, ils ont dit on fait une tournée à partir de 2024, et on a une date à l'Élysée Montmartre à Paris en janvier. J'ai pris ma place. Et j'ai envoyé un message en disant, au fait, moi, je fabrique des contrôleurs MIDI, si ça vous intéresse, je suis là, sur Instagram. Et je me suis dit, bon, ça vaut le coup, au début de projet, d'être un peu audacieux, quoi. Et puis rien. Et puis au bout de 3 semaines, je regarde le message, il y avait un vu. J'ai vu un vu en dessous.
Première victoire.
Ah, déjà, c'est pas mal, ils l'ont vu. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail de leur assistant studio, Pim, qui est devenu un pote, et qui me dit, on veut des contrôleurs qui soient très très gros.
Okay. Déjà, c'était
très gros.
We want something that is big, et big est écrit en majuscule. Are you up for the challenge? Et j'ai dit oui. Et je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, sachant que, effectivement, tu l'as dit, ils ont une collection de synthés historiques de fou. Et donc, ils sont très exigeants sur le matos qu'ils utilisent, évidemment. Donc, j'ai dit oui sans réfléchir une seule seconde. Je l'ai évidemment pas regretté, mais c'était un travail qui était extrêmement intense, parce que quand j'ai dit oui, on était en octobre 2023, la tournée, c'était en janvier 2024. Donc, je leur avais montré en visio un petit clavier que j'avais fait, 25 touches, avec 2 étages. Qui pouvait se replier. J'avais commencé un peu à bosser sur des prototypes comme ça. J'aime bien bosser dans ce sens-là, faire des protos de trucs qui m'intéressent pour moi. Et après, je le montre aux artistes, et puis s'ils aiment bien, je le développe. Et donc, j'avais fait ce truc tout mignon, de vraiment mini clavier 25 touches, qui se referme un peu comme une flight case, et qui se déploie en hauteur comme ça, comme une sorte de grand MS-20, grand MS-10, très vertical.
Double MS-20.
Ouais, double MS-20, double étage, quoi. Ou, ouais, très inspiré par ça, ou par aussi les Oberheim, ou les trucs comme ça.
Ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans ton travail. Tu t'inspires des machines qui, elles, génèrent du son. Hein. C'est pas des contrôleurs, mais historiques.
Ouais, grave. Je commence à avoir une belle bibliothèque qui recense un peu tous ces synthés-là.
Les inserts bois sur les côtés.
Ça rappelle
des trucs.
Grave. Moi, je suis très inspiré par le design généralement de ces années-là, hein, par les
DMX et compagnie.
Grave. Carrément. Je trouve que c'est ce qu'on a fait le plus beau en termes d'instruments de musique, en termes de chaleur, c'est beau, quoi. On a envie d'en avoir à la maison. Et puis, un toucher aussi. C'est tout ça qui m'intéresse. Donc j'avais montré ce petit prototype et Dave, donc un des deux frères Solwax, m'a dit ok, je veux ça mais en plus grand. Du coup je l'ai fait. Encore une fois, il s'est passé la même chose que pour le bouton. J'ai fait un proto énorme, il m'a dit c'est pas assez grand. Donc j'ai refait un proto encore plus énorme, il m'a dit bah trop bien, on en veut 4. J'ai dit ok, on va en faire 4. Donc on en a fait 4, après ils ont dit on en veut un en spare au cas où, donc on en a fait 5. Et c'était ça pendant 2 mois, hein, c'était assez rapide. Hein. On a fait 2 mois pour faire ça.
Et alors, 2 choses. La première, c'était pour quel type d'utilisation? Parce qu'ils aiment les machines, mais ils ont aussi un ordinateur. C'était pour contrôler quoi? Parce qu'on le rappelle, c'est du contrôleur MIDI que tu fais, c'est-à-dire qu'il va être relié à un ordinateur et ça permet de modifier des paramètres dans l'ordinateur.
Petite précision, MIDI ne veut pas forcément dire ordinateur.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Ça
tu
pourrait dialoguer être contrôleur MIDI entre machines.
Tout à fait.
Alors, on peut faire un live sans ordi.
C'est vrai.
Ouais, grave. Alors pour le coup, là, on est parti sur un truc qui était assez complexe, assez audacieux, ambitieux, puisque faut savoir qu'on était beaucoup dans cette équipe. Hein, les contrôleurs que j'ai fabriqués, moi, j'ai fait le design, le hardware, le MIDI, et il y a 3 autres personnes qui ont bossé dessus pour faire des écrans avec des retours d'informations. Arthur pour les potards.
Donc sur les machines finales, il y a un écran qui nous indique ce qu'on est en train de modifier, etc. C'est ça?
Attention, on est dans un niveau de technicité, vous allez pas me croire. je vais te faire le synoptique, donc, hein, le schéma de tout ce qui se passe sur scène.
Chuchotant.
Ce qui se passe sur les... Je finis là-dessus, on était plusieurs. Il y avait Orson, donc un musicien qui est proche de la team de Solwax, qui répare leurs synthés, qui est aussi musicien, qui lui a fait toute la partie analogique, qui est dans les synthés, parce qu'il y a une partie audio analogique. Et le gars qui a fait les écrans s'appelle Wes. On était 4-5 dessus, plus toute la team technique de Solwax, donc leur ingé son, playback, donc il y a Pim dont j'ai déjà parlé, c'est important de les citer parce qu'ils ont fait un travail de fou, et Oli, qui est un autre membre du label Diwi, donc le label de Solwax, il est aussi musicien dans Asamoto, qui est un de mes groupes préférés. Et donc j'ai bossé avec tous ces gens-là pour mettre tout ça en marche. Donc ce qui se passe, c'est que t'as des contrôleurs MIDI, notamment la partie clavier, qui va communiquer. MIDI va être envoyé vers des synthés qui sont en dehors de la scène.
Ok.
Donc t'as des synthés analogiques, t'en as 4 synthés analogiques par contrôleur.
C'est quoi ces synthés? On peut savoir?
Il y a de tout, mais ils les ont changés plusieurs fois. Quand j'y étais, ils ont testé plein. Ils ont un peu de tout. Ils ont un peu des petits Moog, des Moog en rack. Ils ont même des Behringer, je crois. En fait, ils s'intéressent vraiment que au son. Donc ils n'ont pas d'a priori aussi sur les marques, etc. C'est tant que ça sonne bien pour eux. Parce que souvent leurs patchs, eux, c'est plusieurs synthés qui jouent en même temps. Les gros patchs des gros sons comme Crack par exemple, ou c'est deux ou trois synthés qui jouent en même temps avec vraiment un patch particulier pour chaque truc. Donc t'as ça. C'est là que t'as l'ordi Ableton, lui, qui sert à envoyer aussi beaucoup de program change, qui sert à dire pour chaque son, à tel moment du show, là, on va envoyer tel programme dans tel synthé, tel programme dans tel synthé, tel programme dans tel synthé. Et là, donc, t'as les contrôleurs MIDI qui sont reliés à ces synthés-là. Donc, sur le synthé, t'as tous les potards en haut, qui servent à changer le filtre, l'attaque, l'enveloppe, des synthés qui sont en dehors de la scène. Donc, ça se passe en MIDI. Donc, tu peux utiliser le MIDI pour contrôler un synthé à distance. Okay.
Donc là, concrètement, ça contrôle même pas d'Ableton.
Là, alors je pense que je me suis un peu du synaptique exact, mais ça, je pense que ça passe par Ableton.
Ableton devient presque un outil de contrôle,
plus
que de sequencing.
Ah ouais, carrément. Puis de toute façon, il y a
trois
batteries.
C'est là où ça devient intéressant, c'est que
t'écoutes l'Ableton de solo, je pense que tu t'ennuies un peu parce qu'il y a que des envois de programme change, peut-être. Et la particularité, c'était que les contrôles changeaient en fonction du show. Donc, il y a un moment, c'est un filtre, et puis à un autre moment, c'est une résonance. Ou à un autre moment, c'est une enveloppe.
Le même bouton sur la machine a la même action en fonction du moment.
Exactement. Voilà. Tout
ce
était
rerouté. Des boutons assignables, nous, dans...
Ouais. Mais dynamiquement, quoi, pendant le concert. Et donc,
ça, c'est préprogrammé, le fait que ça va changer de nature.
C'est quoi? C'est lié à la séquence dans le concert ou c'est quelqu'un qui appuie sur un bouton pour changer le...
Non, c'est séquencé, ouais. C'est séquencé dans Ableton, je pense.
Ça signifie que c'est le début du concert. Juste pour être très concret pour ceux qui connaissent pas bien.
Ouais.
Limite, t'appuies sur lecture sur Ableton au tout début de ton concert et en fait, tout le long du concert, ça va être la même session Ableton qui va tourner et avec, à des moments, ce bouton change de nature, etc.
Ouais, et puis
tout est préprogrammé comme ça.
C'est ça. Puis il y a des séquences MIDI. Ils vont pas tout jouer au clavier. Il y a beaucoup de séquences MIDI qui sont programmées pour envoyer du coup les séquences au synthé. Parfois elles sont jouées par les artistes sur scène. Parfois ils tournent que les potards pour un flux parce qu'il y a des sons. En vrai, je sais pas si vous connaissez ce son, j'ai beaucoup parlé, Crack, mais c'est une ligne de basse. Franchement, c'est tout. Mais ce qui fait la beauté de ce son, c'est le sound design de la basse et de tous les effets de cross-modulation qu'ils ont foutu dedans, etc. Donc eux, surtout, ce qu'ils jouent, c'est ça. Ils tournent à mort les boutons pendant ces parties-là, quoi. Donc t'as ça, alors c'est pas fini, parce que du coup l'audio, donc ça va dans des synthés, donc les boutons, les potards et tout. Donc d'ailleurs, juste, je précise là-dessus pour savoir quel paramètre il modifie, t'avais un écran au-dessus.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'était un device Max for Life foutu dans Ableton. Donc, encore une fois, la puissance de Max for Life là-dessus. Un device Max for Life qui leur disait, là, t'es sur le filtre de tel synthé. Et le moment d'après,
ou la disto,
ou la disto de tel truc. Voilà. Donc ils ont ces informations-là en permanence. Mais eux, vraiment, ils ont envie de pouvoir jouer, quoi. C'est vraiment leur truc, Soloax, ils veulent jouer sur scène. Donc, ça part dans le synthé. Le synthé génère de l'audio, et puis là, c'est une partie audio. J'allais dire qu'elle revient à la console, mais pas du tout, parce qu'elle revient dans les contrôleurs. Okay. Et la partie du bas, c'est un mixeur audio analogique. Donc, ils remixent eux-mêmes en analogique, en audio, ce qui sort des synthés.
Okay.
Donc, les pistes, les gains de chaque synthé. C'est pas fini, parce que ça repart dans des pédales d'effet,
okay,
qui sont dans le contrôleur. On a mis des racks à l'arrière, ils ont mis des pédales d'effet guitare, synthé. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont. Je les ai même pas vus en fait, parce que moi j'étais
donc
déjà parti.
Tout ça dans la même unité, la même machine entre guillemets.
Ouais, elles sont très lourdes. Hein. Il se passe des choses dans cette machine. C'est très très lourd.
Il y a de tout.
Et
du contrôle, de l'audio.
C'est complexe. Et après, du coup, ça repart. Et là, ça part à la console, quoi.
Et ça, un groupe comme Soloax, pour avoir ce niveau finalement de customisation et de maîtrise sur le produit fini, ne pouvait pas s'adresser à, je sais pas moi, un Akai ou un Yamaha ou un Roland ou n'importe qui.
Si, je pense qu'ils pourraient. Hein. De toute façon, c'est sûr qu'ils ont le réseau pour, mais...
Ils pourraient, mais je ne sais même pas si ce serait pertinent dans les retours. Je ne sais même pas si ça les intéresserait.
Ces marques-là
ça veut dire pour eux avoir quand même un bureau dédié.
Ouais.
À ce genre de
demande, ouais, ou de
demande, de recherche, c'est des ateliers un peu spéciaux entre guillemets, c'est pas forcément des grosses chaînes de production.
Teenage l'a fait, hein.
Teenage le fait,
ouais,
mais
ça peut être intéressant.
Teenage l'a fait, avec une équipe un peu en side.
Parce que ouais. Ça peut exister dans le monde de la guitare, par exemple, parce que je connais un peu mieux, où une marque, un Gibson, un Fender, va faire une guitare spécifiquement pour un artiste, ouais. Voire un ampli, etc.
Ouais, un modèle signature.
Alors, après, il peut y avoir le modèle signature produit pour le grand public, mais même juste pour l'artiste spécifiquement son modèle à lui, etc. Ouais. C'est vrai que ça se fait. J'ai l'impression un petit peu moins dans le milieu du synthétiseur, des machines.
Peut-être de par aussi la complexité de ce genre de trucs et des.
Je pense que même économiquement, ce serait trop compliqué. Parce que quand on regarde, par exemple, je prends une MPC, enfin un MPD par exemple, Akai, quand on l'ouvre, on voit très bien que c'est pas du tout comme un contrôleur comme ça, où on voit que ça a été. Il n'y a pas de logique artisanale dedans. C'est forcément, si ce produit voit le jour un jour, c'est parce que peut-être, je dis n'importe quoi, il a été fabriqué à 50 000 exemplaires.
Oui, bien sûr.
Sauf que du coup, derrière ça.
C'est un modèle industriel, quoi.
C'est un modèle industriel. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir sortir, du coup, aujourd'hui, un petit module avec des boutons autour, etc. Ce serait peut-être pour eux même une perte d'argent considérable. Ou s'ils devaient le faire, ils le feraient facturer à un prix qui serait absolument pas intéressant de l'autre côté. Après, je dis pas qu'il y en a qui le font pas ou qui n'ont pas la capacité de le faire, mais.
Non, mais genre en projet, c'est plus vanity, tu vois, pour que la marque puisse justement dire, bah, nous, on accompagne des artistes.
C'est vraiment pas,
J'ai l'impression c'est tant mieux parce que ça te laisse du business, tu vois.
J'ai l'impression que si ça s'est pas fait, c'est que doit y avoir des raisons assez évidentes.
Mais de business model, en fait.
Ouais, tout simplement.
C'est intéressant parce que ça interroge un terme que parfois on utilise, c'est celui, tu sais, de luthier ou de lutherie électronique.
Ouais.
Et le parallèle est intéressant parce que justement, le luthier, tu dis aussi que normalement, il y a la démarche d'artisan et donc de personnalisation, etc. Et autant ça fait du sens tout de suite quand on parle de guitare, luthier, on comprend. Dans les machines électroniques, c'est un peu moins connu, l'idée du luthier électronique. Mais pour toi.
On a reçu un, quand même.
Oui, absolument. Avec Christophe, ouais. Absolument, qui travaille sur le
Christophe Duquesne.
Oui, Christophe Duquesne. Oui, Aken Audio.
Magnifique.
Et qui, oui, lui, il fait de la lutherie électronique clairement. Et toi, d'une certaine manière, ton travail se rapproche aussi de la lutherie électronique dans le sens où tu vas, de manière, en tant qu'artisan, construire des outils pour les artistes. Quoi.
Ouais. Pour moi, la lutherie électronique, c'est vraiment quand tu vas rentrer dans le signal et plutôt dans le son,
la texture,
dans l'audio.
L'audio. Okay.
Je pense que si tu dis un luthier électronique que moi je fais les luthiers électroniques, il y a deux chances qu'il s'énerve. Et franchement, je lui en voudrais pas du tout parce que je me définis pas comme tel. Je pense que c'est autre
chose. Dommage, ça fait bien sûr un profil LinkedIn.
Le terme lutherie appelle l'instrument au sens
qui génère du son.
Quoi. Le son, ouais.
J'allais dire noble du terme, mais du côté acoustique, c'est un petit peu forcément.
Non, mais ça, je pense que en tout cas, le fond de cette affaire, c'est vraiment un truc de business model. Les marques comme Korg, Roland et tout, elles fonctionnent parce que elles ont utilisé elles font du volume et donc du coup, ils utilisent des outils. Pour produire en masse, donc souvent de l'injection plastique où il y a tout qui est standardisé et c'est très difficile de sortir de ça pour eux parce que ça demande énormément d'investissement. Quand tu fais un clavier, quand tu fais un moule, dingue. Ça coûte des dizaines voire des centaines de milliers d'euros un moule d'injection, il faut que tu le rentabilises.
Non, mais ce qui est intéressant,
c'est plus d'un million d'euros de développement pour le
sortir. Mais justement, en fait, le truc, c'est que on est à la croisée des chemins, en fait, entre des appareils électroniques qu'on utilise tous dans nos vies avec ce qu'on sait par rapport à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ou le fait que bon bah il y a un bouton qui marche plus, tu remplaces l'appareil, tu remplaces la machine, et en même temps les instruments de musique avec justement cette notion de bah j'ai une guitare depuis que j'ai 15 piges et c'est toujours la même et je change les cordes et le truc est toujours là.
Ouais.
Et je trouve ça trop bien justement d'avoir ce genre de bécane où tu dis je l'ai acheté genre en 2020 et en fait en 2045 elle est toujours là. Tant que le signal, le système, la norme MIDI existe, en fait, la machine sera toujours là. Et je trouve que c'est super important parce que moi, justement, par exemple, quand je me suis acheté ma MPC, ça coûtait un certain prix, une MPC Live, et c'était genre 2017. Et en fait, on est en 2026 et la machine, elle marche encore et elle est toujours gardée, maintenue à jour. Et vraiment, tu vois, quand ils l'ont présenté, c'était en mode ouais, c'est comme un iPad, l'écran il est capacitif, multi-touch, machin, etc. Donc j'étais en mode ouais, donc dans deux ans, elle est morte la bécane, tu vois.
Ouais.
Et en fait, pas du tout. Et c'est ça que je trouve cool avec cette notion-là, c'est réussir à mixer à la fois le côté très classique d'un instrument avec le côté modulaire d'une machine. Et je me dis, j'imagine que c'est pas tous les contrôleurs audio de grandes marques qui ont une longévité à 7, 8, 9, 10 ans, tu vois.
De moins en moins, en tout cas.
Ouais, c'est ça le truc. Donc je me dis, il y a vraiment un coup à jouer qui est assez intéressant là-dedans.
Ouais, et puis je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime bien cette période aussi pour les artisans, les makers, les geeks, justement, c'est que il y a une, enfin, on peut faire tellement de choses avec une technologie assez sobre quand même. Ouais. Donc là, c'est un Arduino à l'intérieur, donc c'est une carte électronique très très facile à programmer avec une énorme base de données en ligne partagée pour pouvoir faire ce qu'on veut.
Mais c'est open source, c'est ça tout ça.
Ouais, il y a plein de trucs qui sont open source.
Globalement open source.
Globalement, ouais. Ouais. Pas tout, mais en fait, chacun choisit de partager ou pas ce qu'il fait. Voilà. Donc il y a de belles opportunités pour justement pivoter et changer de modèle d'affaires. Moi, je crois beaucoup aux plus petites marques. Ben, en guitare, c'est un trop bon exemple. Il en existe plein des luthiers qui sont indépendants.
C'est dur quand même, hein, souvent, à ma connaissance.
C'est dur.
D'en vivre confortablement et tout.
Tout à fait. Et il en existe aussi beaucoup sur le monde maintenant des pédales de guitare, mais j'ai aussi l'impression que c'est difficile. Je pense que ça l'est pour tout le monde, en fait. donc pédales de guitare, mais aussi les synthés modulaires. Il y en a plein, des petites marques de une ou deux personnes qui font leurs petits modules.
Oui, c'est vrai qu'en fait, avec maintenant la possibilité notamment d'imprimer des objets en 3D, on a accès en fait à quelque chose qui n'est plus du bricolage, mais quasiment de la manufacture artisanale.
Carrément. En fait, l'impression 3D, j'utilise principalement la découpe laser, mais c'est le même genre de choses. C'est des outils qui sont assez accessibles. Donc, soit personnellement, c'est le cas de l'imprimante 3D, parce que c'est devenu vraiment pas cher et très quali. Je sais pas si t'aurais pu deviner que c'était de l'impression 3D.
Tu parles de ta machine.
Ouais, je l'ai vu, j'ai dit c'est de l'impression 3D, mais c'est de la bonne impression 3D.
C'est ce que tu connais bien. C'est vrai qu'il y a une image un peu cheapos.
En fait, c'est plus la façon dont la lumière tape les potards, où tu vois que c'est pas du plastique thermomoulé en usine, tu sais, qui est généralement fini un peu plus laqué.
Ok, je suis un peu déçu de ta réponse, mais
Non, mais par contre, c'est super bien fait.
Je trouve qu'en tout cas, il y a un jump de fou dans la qualité de l'impression 3D, ce qui me fait dire, en fait, on a des outils pour produire en très petite série qui commencent à être aussi quali que ce qu'on faisait avant pour de la grande série. Mmh. Et donc là, on n'a plus trop d'excuses pour pivoter de business model, je trouve.
Mmh. Ça me fait penser, puis après, on reparlera avec Romain de certains défis techniques autour de l'ordinateur, autour de la synchronisation, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Mais dernière question, Xavier. Sur tes machines, on n'a pas trop parlé encore de l'aspect esthétique, design. On en a parlé un peu, mais typiquement avec SOLWAX. Tu leur as proposé un peu une base, mais ensuite peut-être qu'il fallait l'adapter à une forme de DA pour leur tourner. Comment ça se passe? Est-ce que t'es en relation directe avec les gens qui vont gérer, j'en sais rien, les décors? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un truc à penser dans tout ça comme ça?
Ouais, carrément, ça dépend vraiment des projets. Pour le 4 Solwax, c'est assez marrant. Ils m'ont dit un truc et c'est à moi l'interpréter. J'aime beaucoup quand ça se passe comme ça en tant que designer, de devoir interpréter des mots qu'on m'envoie comme ça dans la tête. Et là, ils m'ont dit no design.
Okay.
Donc ça venait peut-être aussi de leur DA. Je sais qu'ils ont un designer DA qui fait les pochettes d'albums, le graphisme, qui réfléchit aussi un peu à la scéno. J'ai pas été en contact avec lui. Moi, j'ai juste vu les frères Solwax, les frères Dewell direct, qui m'ont dit no design. Genre, on veut pas que ça soit méga designé dans les moindres détails, comme c'était le cas pour leur précédente tournée, où là carrément les gars ils avaient fait un tapis. Ils commençaient, ils mettaient un tapis au sol, où il y avait chaque casque qui était dessiné de manière magnifique avec, alors là, la batterie, elle est tournée comme ça. Là, on met tel synthé. Là, tu rentres par là. C'était un damier qui était imprimé au sol. Et c'était pensé dans les moindres détails. C'était vraiment, ils avaient mis beaucoup de design dedans. Beaucoup d'énergie à penser tout dans les moindres détails. Et moi, ils ont fait l'inverse. Ils voulaient quelque chose de brut. De vraiment la star de ce show, c'est les trois batteries. Et ils sont quand même connus pour les synthés. Donc, ils voulaient avoir aussi quatre gros synthés sur scène. Ils m'ont dit nos designs, donc en vrai j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais sans en faire des caisses. Donc on a fait des caisses. On a fait des boîtes. Vraiment, j'ai juste fait des boîtes inspirées par des flight case, l'univers de... En fait c'était un univers assez rodi quoi. Ils ont des échafaudages, les batteries elles sont sur des échafaudages. C'est des praticables qui sont sous les synthés. C'est un univers très brut de scène quoi. Voilà.
Intéressant.
Et je pourrais parler aussi du cas Fred Huguen qui était aussi hyper intéressant. Maintenant, si tu veux.
Sur les aspects esthétiques, par exemple. Ouais, si, vas-y, raconte.
Pour Fred Huguen, j'ai reçu un brief extrêmement bien fourni. J'avais jamais reçu ça. J'ai reçu deux briefs de 10 pages. Il y en a un qui expliquait l'univers design de Fred Huguen, donc les polices, les couleurs, les pochettes d'albums, quand elles étaient construites, etc. Le lien aussi avec les matériaux, ce qu'ils aimaient bien sur scène. Donc j'ai eu un document que j'ai feuilleté pendant des heures et des heures, qui était hyper complet sur toute la DA de Fred Huguen pour la tournée de 2024-2025. Et j'ai un autre document où il précisait pour chaque contrôleur qui me demandait ce qu'il voulait, mais avec des mots parfois assez flous, mais c'était génial d'avoir ça, d'avoir un truc aussi un peu conceptuel parfois. Est-ce que j'en ai retenu des sortes d'adjectifs à la fin. Je sais que
genre
ils sont deux sur scène, il y a Fred et il y a Tony. Fred, il voulait quelque chose d'assez chaleureux et humain, et sur Tony, il voulait quelque chose de technique et froid plutôt. Mais c'est okay. C'est ma traduction parce qu'ils l'ont pas dit avec ces mots-là. Ouais. Et donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le job de designer, c'est d'aller comprendre ce qu'ils sous-entendent et de faire des propositions, et puis après tu vois si ça match ou pas. Moi, les premières propositions que j'ai fait pour les trucs de Fred Again, la designer, elle était comme ça, non, c'est pas exactement ça. Et donc du coup, on a fait une V2, V3, et au bout de la V3, ils étaient bien.
Tu sais d'ailleurs comment, parce que c'est Fred Again, ces dernières années, c'est une superstar mondiale, ouais. Tu vois, c'est vraiment monstrueux. Tu sais comment il avait découvert ton travail? Comment sont ses équipes ou lui?
Ouais. Ouais. Grave, je sais, c'est via Jersey. Okay. Merci Jersey encore une fois. En fait, ils ont mis une vidéo de leur matos, donc c'était des machines transparentes que j'ai fait pour eux, sur Insta, ça a bien tourné. Et c'est Tony, du coup, l'acolyte de Fred sur scène, qui a voulu qu'on bosse ensemble. Voilà, pour le coup, j'ai jamais rencontré en vrai Fred, j'ai rencontré que sa team.
Okay. Il faut que. On va se faire quand même parce qu'on a parlé beaucoup de crack de Solo Axe. Eh ben, on va s'écouter quand même un extrait, petite pause, et puis comme ça, après, on revient
très
tranquillement
bon
avec.
Très bon choix.
C'est le tien, en tout cas, on va te dire si c'est bien. C'était un bon choix. Ah, il est bien le morceau, ouais. Il est trop cool.
Donc ça, sur scène, on est d'accord, les mecs, ils jouent pas les notes.
Ça dépend des morceaux, mais sur celui-là, non. Sur des vieux morceaux comme ça, où vraiment, ils vont se concentrer sur le sound design de la basse et mixer les trucs des synthés entre eux. Et puis c'est jamais exactement la même chose à chaque concert.
Hyper intéressant. Romain, si tu devais retenir une date ou une tournée qui était vraiment un défi technique de malade dans ta carrière.
Une, vraiment, ouais. Non, à chaque fois.
C'est vrai?
Ouais, à chaque fois.
C'est pas de genre, y compris en fonction, sur des scènes un peu plus modestes, parfois, etc. Il peut y avoir le défi peut-être tout aussi important. C'est pas une question d'échelle?
En vrai, non. De manière très honnête, c'est finalement un peu la raison pour laquelle on m'a appelé à chaque fois. C'est un peu pour relever des défis. Mmh. Donc ça a toujours été un peu d'être face un peu à une problématique où, souvent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh ben, on va réfléchir et puis on va monter une équipe et puis on va voir comment on peut faire. Et à chaque fois, ça passe vraiment à très peu de choses.
Alors, un ou deux exemples où tu as été challengé et tu nous en parles un tout petit peu, tu vois, de ce qui était compliqué.
Challenge qu'il y a eu, je pense notamment à PNL.
Ouais.
Pour parler d'autres choses en termes de playback, parce que pour le coup, il n'y avait pas de playback. Il n'y avait évidemment donc pas de musicien en live. C'était vraiment un backing track, comme vous vous rappelez, comme si un DJ en gros était sur scène. Tout le travail était là pour le coup de faire ce qu'on appelle donc. En dehors du backing track, du real time. Donc, c'est-à-dire un deuxième setup d'ordi qui lui est dédié à tout ce qui va être traitement de son en temps réel, d'où le terme real time, qui à la différence du setup playback est censé avoir le moins de latence possible, évidemment du fait que on est censé jouer en live, donc passer par exemple un micro dedans, mettre des effets notamment de l'autotune ou tout type de production, de synchroniser tout ça du coup à la timeline qui est sur le premier setup, qui est notre, on va dire, setup classique, et du coup de faire en sorte que tout le show soit millimétré sur des automations de délai, de niveau, d'autotune, et que la production vocale soit la plus à même de respecter la production de l'album.
Quel défi, parce que, alors donc déjà, PNL se repose beaucoup sur l'autotune, évidemment, dans ces morceaux, c'est une part de l'esthétique hyper important. Et surtout, en fait, on ne le rappelle pas assez souvent, mais un autotune, ça se règle. C'est-à-dire qu'il y a une tonalité à préciser, machin, etc. Donc c'est-à-dire que sur tout un concert, leur autotune, il évolue sans cesse dans ses paramètres.
Et on parle de gens extrêmement exigeants, comme j'en ai rarement vu.
Ouais, c'est vrai que j'avais entendu ça.
Au demi dB près, une reverb avec un sidechain à moins 12. Et donc, on avait tout un process dans les répétitions où... je pense qu'ils ont dû avoir des mauvaises expériences dans le passé qui ont fait qu'ils demandaient en fait à chaque fois qu'on puisse valider, comparer, dès qu'on devait updater un réglage. Donc par exemple, si à un moment on se parlait de sensations, ils nous disaient « Ah là par exemple, peut-être pas assez mouillé ou j'ai pas assez la pièce » ou ce genre de choses, mais on essaie de traduire du coup avec nos termes, un peu de la même manière que Xavier se retrouve à le faire avec, comme il en parlait en termes de design, ouais. Mais nous d'être là un peu avec des mots qui sont pas forcément techniques, ou des fois techniques, mais pas les bons. Ouais. Donc, ce qui peut prêter encore plus à confusion. Et d'essayer, du coup, d'analyser un peu on va dire, une demande artistique, de la régler. Sauf que le problème, c'est que des fois, on agit sur 3, 4, 5, 6 paramètres. Il fallait que dans notre process, on puisse trouver une solution pour dire, on fait un réglage de temps zéro quand c'est là. On update, ça s'appelle B. Et du coup, pouvoir passer de l'un à l'autre et de comparer en permanence. Donc, forcément, ça nous a amené à s'amuser avec eux, à faire un peu des blind tests, sans trop leur dire au début, et à chaque fois, ils étaient à 100% dans le vrai. C'est-à-dire que des fois, on décalait juste un temps de reverb, par exemple, de 2 secondes à 2 secondes 2.
Et ils l'entendaient.
Direct, c'était « Non, non, mais là, t'es revenu sur l'autre. » Donc en fait, on s'en amusait presque à la fin à se faire limite des blagues, de ce genre de choses. Donc c'est pour donner quand même le niveau de précision...
avec une vraie oreille, en plus.
...des artistes. Donc forcément, ça nous a amené à devoir développer des choses aussi pour répondre à cette exigence-là. Avec un facteur aussi où on travaille quand même dans des salles avec une capsule qui capte aussi du micro de la salle, donc forcément on avait des chaînes d'audio qui étaient assez, assez délirantes.
Très concrètement, tu pourrais nous parler un peu de leur setup au niveau du playback, etc., tu vois, et du real time. C'était quoi, une session Ableton aussi?
Alors oui, concrètement c'était en fait il y avait deux setups, un premier setup Ableton. Enfin non, il y avait même trois setups, je dis n'importe quoi. Un premier qui était donc le backing track, donc vraiment toute la partie timeline séquentielle. Donc en gros, c'est à partir de ce setup-là qu'on va lancer un morceau qui du coup après envoie le timecode à la vidéo, le timecode à l'image, à la lumière, je voulais dire. Ensuite, on a un deuxième setup qui est synchronisé, lui, pareil sur la timeline du premier ordi, enfin du premier setup, parce que tout est doublé à chaque fois, permettant du coup d'avoir le suivi des automations qui elles du coup sont insérées dans les consoles pour que du coup ce soit en audio directement dans les consoles que les ingé-sons puissent travailler. Sinon ça voudrait dire que l'opérateur se retrouve à avoir l'encodage de la session à faire, le réglage des autotunes, les automations, le traitement audio. C'est juste pas possible pour une seule personne. Donc l'idée c'est de réfléchir à des systèmes justement pour pouvoir contrôler finalement et déporter en fait à chaque corps de métier chaque synchronisation. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a dû développer sur Max4Live de manière un peu spécifique pour insérer, par exemple, juste des niveaux dans des pistes, dans des consoles. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à pouvoir écrire une valeur dans une console directement. Parce qu'on aimerait, par exemple, se dire, tiens, le niveau de la reverb, on le contrôle, on l'envoie et on le retire. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. En fonction des technologies, on peut pas forcément contrôler facilement, en tout cas, d'une marque à une autre, ça reste des choses un peu délicates à faire.
Mais ça, du coup, ça devient limite un preset un peu standard pour toi, parce que du coup, ce besoin-là, tu vas le retrouver sur toutes les...
Exactement, c'est des choses qu'on se retrouve à faire. Après, c'est vrai que dans le cahier des charges qu'on fixe, encore une fois, il y a un rapport de responsabilité où moi, je fais en sorte d'avoir le moins d'agissement, on va dire, sur la chaîne audio. C'est-à-dire que j'envoie de la data qui contrôle, mais je peux pas non plus prendre la responsabilité en tant que playback. Oui. De toute la partie signal flow du son. Donc c'est pour ça que je fais en sorte qu'il y ait le moins d'audio possible qui passe chez moi, parce que il faut quand même que chaque corps de métier garde sa responsabilité, parce que c'est souvent en fait ce qui peut aussi...
Sinon c'est de ta faute et après t'es
responsable de tout. Et en fait, à un moment, dans un cas où t'as un update à faire en festival et que ça joue dans une heure, moi de base en général je dis non et je l'argumente et du coup ça n'a pas lieu d'être, mais c'est des cas où il peut y avoir des gros problèmes d'équipe où tu te retrouves à être la personne qui va encoder la timeline, devoir changer les presets, vérifier, et puis en fait t'as tellement de charges que finalement c'est là où les bugs apparaissent. Donc encore une fois, dans une logique de responsabilité, mais j'essaie de réfléchir aux choses en disant attention, ça si on le fait ça va forcément engager certaines choses, donc il y a besoin de vérifier des choses en équipe, etc. Et le troisième setup était le setup autotune, qui lui était vraiment dédié pour la partie autotune, en dehors de la partie du coup automation.
Et d'ailleurs, elle concernait quoi, ces automations? C'était
des automations sur les délais, sur des reverbs qui étaient du coup insérés dans les consoles sur chaque voix, en fait, permettant du coup de pouvoir envoyer un délai sur une voix.
D'accord. C'est question bête.
Il y a pas de question bête, Salman.
Il y a que des réponses qui le sont.
Bon, ça te met la pression à toi, alors. Tu vois, on dit que tout est quand même très séquencé, très programmé dans une session Ableton Live. Est-ce que, tu vois, avant que le morceau se lance, est-ce qu'il y a un certain temps entre les deux morceaux, ou alors est-ce que attends, quelqu'un met pause, on dit ok, on passe au nouveau morceau, ok, là j'appuie, alors, on reprend dans la session au moment où le morceau se lance. Il y a quelqu'un qui se met de ça.
J'ai une règle pour ça que je donne toujours en conseil dès le départ. Très souvent, l'artiste arrive en disant « Ok, moi j'ai un show, il va faire une heure et demie, c'est linéaire, ça bouge pas, on s'arrête jamais. »
Y compris les pauses entre les deux morceaux, voilà. Il y a deux minutes, c'est tout.
Même pas de pause. Souvent, c'est « On enchaîne tout, on met des transitions partout, je dis « Cool !» Donc du coup, quand il y a un pont de light qui descendra pas parce qu'il y aura un problème, quelle temporisation vous prévoyez vis-à-vis de votre équipe pour qu'il puisse intervenir? Une fois que vous êtes parti, c'est sans filet. Donc si on doit arrêter, comment on reprend, vu que ça n'a jamais été arrêté? Donc c'est toutes ces questions-là en fait souvent qu'on pose.
Puis l'interaction avec le public.
Mais eux, ils y pensent pas.
Alors, ça peut être intégré dans une timeline, cette interaction-là, mais c'est surtout d'avoir la capacité de pouvoir arrêter et reprendre si besoin. Et encore une fois, je reparle de contingence, mais parce qu'en fait, ce ne sont que des leviers finalement pour ce genre de choses, de se dire, ne serait-ce que si une interruption audio ou quoi que ce soit, c'est pas le problème de devoir arrêter, c'est à quel moment on reprend. Et reprendre à un moment où on est jamais à l'arrêt, ça veut dire qu'il y a du son tout le temps. Donc c'est aussi une manière de pouvoir dessiner des blocs. Alors après, il y a plein de manières. Si c'est juste d'avoir du son pour des transitions, on peut très bien imaginer d'avoir un deuxième setup qui est dédié que aux transitions, qui permet du coup de faire comme si on avait une platine, platine A, platine B, ou pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais j'essaie de recommander au maximum de ne pas faire de linéarité absolue, ou au pire de construire avec des blocs de deux, trois titres.
Et il y a un opérateur qui va se charger de dire, ah là, je sais qu'il faut une transition, là attends, pause, là, je regarde l'artiste, il a l'air de vouloir discuter, je relance pas tout de suite, il me fait un signe, on relance. Enfin, comment ça
se définit. En fait, c'est des choses qui sont définies en créa dès le départ, enfin, même avant la créa, et on décide, nous, en fait, c'est des questions qu'on pose. Je prends toujours l'exemple du plombier. Le plombier, en fait, c'est lui qui va poser la question de savoir en gros si le mur est mouillé, depuis combien de temps a été acheté telle trip de choses ou d'appareils, et en fonction de son diagnostic, c'est lui qui va répondre à un diagnostic en disant les problèmes sont les suivants, etc. Mais c'est jamais la personne qui habite dans son chez soi qui va pouvoir sonder exactement quel est le problème. Donc nous, c'est un peu comme ça que je considère notre métier, en tout cas, c'est de pouvoir poser les bonnes questions pour arriver justement à ce qu'on ait les bonnes réponses en face et
donner les bons tuyaux,
voilà, donner
waouh.
Mais alors là,
belle
masterclass. Masterclass.
Et donc ça veut dire que quand il y a un mec qui dit pull up lingé, tu vois, en fait il fait chier 12 personnes derrière et le public le sait même pas, quoi. C'est
après incroyable. Voilà, c'est juste d'envisager quel cas potentiel on peut retrouver, ce qui est du coup l'intérêt aussi qu'on a nous de faire beaucoup de créa chaque année, parce que du coup on peut noter un peu tous les cas qu'on rencontre, et du coup d'avoir des éléments de réponse en disant attention, s'il se passe ça, qu'est-ce que vous avez prévu? Nous on a des idées, mais au moins les choses sont envisagées. Donc voilà, en tout cas, je pourrais trouver beaucoup d'exemples de choses un peu challengeantes.
Mais ça, c'est super intéressant parce que il y a plein de types. Alors là, vous êtes vraiment spécialisé musique électronique, mais t'as parlé de PNL, donc hip-hop. Oui. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'entendais certains trucs, il y avait des groupes où je me disais, mais en fait, sur scène, ça doit être dégueulasse parce que en studio, ils ont 14 effets sur chaque voix, tu vois. Ne serait-ce que la voix d'un Tupac qui était doublé, machin, etc. Je me disais, putain, mais en live, comment ça se fait? Parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, la possibilité de foutre 4 ordinateurs derrière qui vont traiter, tu vois. Pour moi, par exemple, l'autotune, pendant longtemps, c'était un truc que tu pouvais appliquer en studio, mais qui était compliqué à faire en live.
Le problème de l'autotune, ça a toujours été la latence.
Ouais.
Alors, il y a eu des solutions quand même assez vite. J'ai pas trop l'historique. Je sais qu'il y a eu des appareils. Je serais curieux de savoir d'ailleurs quel était le premier. Si quelqu'un a la réponse, je suis quand même curieux de voir. Mais c'est vrai que c'est vraiment arrivé, ça s'est démocratisé surtout dès que les plugins sont arrivés et qu'on a eu les possibilités de les avoir avec des modes sans, enfin faible latence en tout cas.
Mais l'idée en fait, c'est juste pour rappeler concrètement, c'est-à-dire que tu chantes dans ton autotune, et il faut tout de suite que t'aies le retour dans tes oreilles imperceptible, t'as l'impression de chanter en temps réel effectivement, alors que très vite avec les solutions informatiques, il peut y avoir un très léger décalage. En fait, c'est très vite ça déstabilise tout.
À une époque, il fallait absolument avoir une carte son quand tu faisais de la musique avec un ordinateur parce qu'il y avait de la latence. Alors qu'aujourd'hui, en fait, n'importe quelle bécane, tu peux bricoler dessus.
Avec des drivers, mais bon.
Il y a toujours après. Il y a toujours des plugins qui demandent plus de latence que d'autres. Enfin, après, c'est...
J'adore ta question. Moi, franchement, le m'obsède. J'ai des concerts. J'aimerais trop savoir comment ça sonnait
comment
à l'époque.
Ils ont fait.
Bah ouais. Ouais. Parce que je regardais là justement. On est au 30e anniversaire de la sortie d'un album d'un groupe de Cleveland là, qui s'appelle Bone Thugs and Harmony, où justement eux, c'était des flows très saccadés, mais en même temps des harmonies mélodiques, machin, avec 12 000 effets, tu vois. Et je me disais, mais en fait, même les mecs quand ils rappaient, tu sentais que c'était pas du one shot, tu vois, parce qu'en fait il faisait tellement de roulements et tout que normalement tu peux pas respirer. Donc je me disais, mais en fait en live ça devait être dégueulasse, tu vois. Donc ils avaient des techniques où ils se baquaient les uns les autres, etc. Mais tu te dis à l'époque ça devait être un peu déceptif, tu vois, comme
Et les Beatles, ils ont arrêté de faire du live quand ils ont commencé à faire des albums trop complexes, hein. Dommage, hein.
Et puis il reste la question d'ailleurs, est-ce que vous vous la posez parfois tous les deux, cette question de se dire, un live, il n'est pas forcément... Enfin, on n'y va pas pour retrouver l'expérience de l'écoute d'un album, en théorie.
Mille fois d'accord.
Bah, les Américains n'étaient pas d'accord.
Et en même temps, dans toute notre discussion depuis tout à l'heure, il y a quand même aussi, on le sent quand même, une course technique aussi parfois, qui peut exiger des moyens. Est-ce que d'ailleurs ça crée parfois des disparités entre les artistes? J'en sais rien. Toujours est-il qu'on est vraiment dans la recherche d'une expérience hyper calibrée aussi, tu vois, de se dire, attends, là, on reproduit grâce au playback des trucs qu'on avait normalement en studio, c'est un peu difficile de les refaire en live ou d'avoir tout le monde, alors tout est un peu resimulé, entre guillemets, dans cette expérience. Et est-ce qu'il y a un truc quand même de cette recherche justement de retrouver le son de l'album?
Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet dont on parle quand même assez peu, qui est... Moi, c'est ce qui m'a toujours motivé à faire ça. C'est l'idée d'être quand même dans une salle où il y a des gens qui sont là, qui ont acheté une place et qui sont juste là pour passer un moment en fonction de ce que ce moment représente pour eux. Un moment, en général, plutôt calibré d'exceptionnel. Donc, c'est vrai que on est tellement après arrivé à la course, aux productions, aux spectacles. En fait, tout le monde propose des trucs qui sont dantesques dans tous les sens, avec des solutions
techniques. C'est une attraction, en fait. C'est
exactement.
De la musique,
exactement.
Et souvent dans l'optique de reproduire quand même le son un peu du CD, quoi. Non. Bah,
en fait, c'est un peu une facilité qui, du coup, enlève le fait de se poser la question simple qui est de, OK, à partir du moment où je vais être, moi, par exemple, artiste, dans une salle, à poil, avec juste un clavier et qui est, je sais pas, imaginons 2000 personnes autour de moi, comment je fais que ce moment existe avec une vraie valeur émotionnelle et que d'un coup, cette chose-là puisse vraiment se diffuser au travers des gens?
Mais c'est soit l'extrême simplicité, soit au contraire, là, c'est l'extrême complexité. Mais
le fait de se poser la question, déjà, fait que ça remet aussi des canaux un peu en place sur, des fois, la valeur des choses, tout simplement, qui sont de se dire, OK, des fois, ça arrivait en réunion qu'un artiste ait une idée. Ah, ça serait génial que j'arrive en hélico avec un machin. Et puis d'un coup, et puis tu dis, OK, super. Cette idée-là, potentiellement, on va même pas la chiffrer à 100 000 près, mais ça va coûter, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros. Pourquoi pas? Sauf que du coup, quelle est la valeur ajoutée de cette dépense ou de cet investissement vis-à-vis de la réalité artistique? Alors que ça se trouve, je dis n'importe quoi, peut-être qu'une solution avec une disparition et un genre de mec qui arrive dans la foule et qui fait autre chose, ça coûterait peut-être 2000 euros et ça serait peut-être aussi valorisé en fonction de l'endroit où ça se passe. Donc, ce rapport finalement à qu'est-ce qu'on vient chercher en live et du coup, ce rapport aux albums qu'on a envie de recréer, etc. Moi, ce qui m'intéresse en tout cas, et c'est extrêmement personnel, c'est d'aller voir des choses qui vont... toujours avec une certaine marge, me surprendre, me donner vraiment une espèce de vérité que du moment, avec une réalité émotionnelle que j'aurais pas forcément eue en écoutant l'album. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup les groupes qui se permettent d'avoir une identité. Je prends l'exemple de l'Impératrice, par exemple, où on écoute l'album,
qui t'a travaillé,
où t'es vraiment à la maison, un peu au coin du feu, avec des petites batteries électroniques, etc. T'arrives sur scène et forcément, là, d'un coup, t'as, on va dire, un upgrade de rythmique qui est fait que c'est la même musique mais qui est vraiment adaptée et arrangée pour être écoutée et vécue en scène.
Mais alors ça c'est tes goûts, Mais ce que tu observes,
c'est très personnel.
Mais ce que tu observes,
très personnel.
Ce que tu observes de la part des artistes quand tu, avec lesquels tu travailles, etc. Est-ce qu'il y a cette idée vraiment de, attends mon gars, il faut qu'on ait le niveau de production qu'on a sur mon morceau de base, quoi.
Oui, après aujourd'hui, on y arrive beaucoup plus facilement qu'avant.
Oui, c'est ce qu'on
a des
dire,
outils. Ouais. Après, c'est un peu comme disait Xavier tout à l'heure, il y a un rapport d'exigence aussi et de parti pris vis-à-vis de certains artistes, qui certains vont beaucoup plus loin.
Ouais, c'est ça.
Dans le parti pris de se dire, ok, je prends des risques et je vais y aller et je suis performeur et j'y vais à 200%, ou de se dire, je suis ultra flippé, j'ai jamais fait ça de ma vie.
On a sur le coup. Ouais.
J'ai plus l'impression, effectivement, de rencontrer des artistes qui veulent aller, en tout cas, qui ont conçu leur album pour qu'il soit écouté sur ses écouteurs ou dans un salon ou peu importe. Et par contre, quand ils s'intéressent au live, ils veulent faire un live pour que ça se joue dans une salle. Ils l'envisagent pas du tout de la même manière. Et on a vu plein récemment, justement, des artistes qui ont fait un album live et après qui ont sorti, enfin, qui ont fait un album classique et qui après ont sorti la version live et qui ont rien à voir. Justice, c'est un bon exemple. Ils ont une exigence de fou pour leur live.
Solwax aussi. Le design,
Tous ces artistes-là, ils ont pas envie que ça soit exactement.
Mais c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, on arrive quand même à un moment où la technologie nous permet de nous assurer qu'on a exactement la qualité studio sur scène, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limitation technique. Et paradoxalement, on se s'impose d'autres limitations pour justement faire le distinguo entre l'album studio et la version live, notamment pour de la musique électronique qui effectivement passe pas pareil en fonction des systèmes audio avec lesquels tu les écoutes.
Après, j'ai l'impression que c'est un peu la beauté aussi de ce qu'on fait, c'est de pouvoir évoluer en permanence vis-à-vis d'une contradiction ou d'une limite qui permet un peu d'essayer de les pousser et d'essayer justement de donner une émotion à cette difficulté, parce que finalement, si tout était extrêmement lisse et simple, l'émotion dégagée, du coup, elle serait, je pense, si on la mesurait, assez infime. Donc je pense qu'il y a aussi ce rapport un peu de brutalité, d'aller essayer de chercher quelque chose qui fait aussi que d'un show à l'autre, moi c'est ça qui va m'intéresser en tout cas, c'est d'avoir l'insensation en tout cas que je suis en train de voir une proposition un peu différente que le show de la veille, parce que juste en fait c'est quand même des humains qui sont en train de s'exprimer, en train de faire quelque chose, donc je trouve ça quand même plutôt intéressant d'arriver à se détacher aussi d'une créa qui serait par exemple un album. Mais encore une fois, mon avis est très très personnel. Donc,
Mais est-ce que là, tu te dis, quand tu regardes un peu le niveau le niveau technologique en fait que tu peux apporter, etc. Est-ce que tu te dis, il y a des choses que tu es encore aujourd'hui incapable de faire par rapport à des demandes d'artistes en termes de justement de synchro entre différents trucs, des pistes d'effets, des machins? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, il faut pas qu'on me demande ça parce que c'est mort, je pourrais pas?
Très honnêtement, non. Parce que c'est pas dans cet axe qu'on raisonne. On est plutôt à se dire, si c'est pertinent, on va essayer de trouver une solution. Mais si d'un coup, on nous fait une demande totalement... faudrait trouver un exemple de demande un peu dingue. Mais
Il y a toujours des moyens de contourner, en tout
on
cas.
On peut toujours contourner, c'est exactement ça.
J'ai une machine assez simple qui ont du coup des fonctions assez limitées. Et puis, c'est un travail, en fait, c'est un travail d'ingé, de reposer la question de pourquoi est-ce que tu as besoin de telle fonction, c'est pour faire quoi, tu creuses un petit peu.
C'est-à-dire que
t'analyses le besoin et puis tu trouves la meilleure réponse. Et là, il faut détacher la solution technique du besoin qu'on te demande. Tu disais ça tout à l'heure avec Ableton et c'est très vrai pour tout le reste aussi en design. Quand t'as quelque chose en tête, quand ton client il te demande quelque chose, lui il a une idée en tête, mais ce que tu dois faire c'est comprendre son besoin et son envie réel
et lui proposer dans un contexte aussi.
Et lui proposer quelque chose qui est dans ton éventail de possibilités ou trouver une alternative.
Parce que tu l'évoquais notamment avec PNL où en fait parfois ils utilisaient des termes qui étaient pas les bons, mais qui étaient des termes réels et existants dans ton bien univers sûr. À toi. Et en fait, c'est ça, c'est comment tu t'assures, enfin, comment la relation, est-ce que les artistes, une fois qu'ils ont bossé avec vous, eux aussi, ils mettent à jour leur logiciel, peut-être, en se disant, ah merde, j'utilisais ce terme-là, en fait, ça n'a aucun rapport.
Merci
Romain.
C'est un rapport de collaboration, de confiance. Et puis, je pense que c'est un facteur humain qui est assez évident, qui est que, à partir du moment où tu commences à construire quelque chose, et que t'apprends à te connaître, et que t'arrives aussi à analyser des gestes, analyser des signes, analyser même des comportements, que ce soit du stress, le fait de voir un artiste rassuré après avoir agi d'une certaine manière, etc., forcément, une espèce de bibliothèque, un peu de compréhension qui se crée, et qui se traduit très vite en confiance. Donc, forcément, vu que c'est un travail qui est quand même très compliqué, c'est-à-dire d'arriver à exprimer des choses qui sont juste des ressentis et des émotions avec des termes techniques. Nous, c'est vrai que c'est un peu notre métier parce qu'on est plus du côté technicien et ingénieur de la chose. Mais forcément, ce rapport de confiance, une fois qu'il est enclenché, forcément, ça peut perdurer sur des relations un peu plus longues, sur des collaborations, en tout cas sur plusieurs projets.
Romain, peut-être pour, parce qu'on se rapproche petit à petit des deux heures d'émission.
Ah ouais,
on va pas tarder à nous arrêter.
Tunnel.
Mais on a assez peu parlé au final du live de Justice en tant que tel. On les a souvent évoqués, mais on n'a pas
vraiment. On n'a pas le droit.
C'est
sous NDA.
On peut rien dire.
On peut rien dire. Est-ce que quand même quelques éléments un peu de leur setup en termes de playback, tu vois, des trucs qui ont été importants pour toi sur cette. C'était toute une tournée en plus.
Déjà, la première chose à donner en info, c'était comment nous on est venu, comment on a été amené à faire une proposition vis-à-vis de cette tournée. Donc la demande déjà, elle était d'avoir un setup qui soit fiable quoi qu'il se passe. Donc ce qui déjà amène quand même pas mal de choses à considérer, qui sont quel était un peu le background du projet. Comprendre comment eux ont vécu leurs années précédentes de live, qu'est-ce qui les amène à mettre en premier mot l'exigence de fiabilité.
C'est qu'ils ont eu des petites galères, probablement.
Donc du coup, c'est vrai que nous, arriver dans cet état-là de position de diagnostic déjà dans un premier temps, ça nous a amené à poser énormément de questions, d'essayer de comprendre. Et forcément, en diagnostiquant, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été faites de manière un peu difficile, en tout cas à assumer sur des prestations. Et ils ont eu pas mal de soucis, ce qui les a, on va dire, rangés dans la catégorie de ce que j'appelle les enfants... j'ai perdu le terme.
Traumatisés.
Les enfants traumatisés.
Ok. Ah ouais.
Avec où dès qu'ils voient un bâton, d'un coup, ils courent dans l'autre pièce parce qu'ils ont peur que ça leur arrive. Donc en fait, on a déjà commencé sur une base qui était pour nous très compliquée. C'est qu'on était face à deux artistes qui n'arrivaient pas à considérer que ce que nous on faisait était quelque chose qui pouvait fonctionner.
Oh. Ah ouais, c'est bien ouais. Ça. Donc il faut établir la confiance, quoi.
C'est même en dehors d'établir une confiance, c'est qu'on a bossé pendant 2 ans et demi et que pendant 2 ans et demi, à la fin, je me suis rendu compte que tout ce qu'on faisait, c'était ouais, mais de toute façon, ça marchera pas parce que ça peut pas marcher.
Ah, donc, mais ils sont français en fait.
Et que j'ai compris après avec le temps,
French
parce
touch.
Que forcément, ça amène dans des dispositions où tu te dis bon, alors ok, il va falloir quand même qu'on fasse nos preuves, qu'on arrive à rassurer aussi un process. Donc c'est quand même la chose la plus importante à mettre en évidence, parce que du coup, tout découle un peu de ce principe-là.
Et tu pensais que leur inquiétude, pardon, elle concernait quoi? C'est genre, ils manipulent tel truc et en fait, ça répond pas. Ou alors, je sais pas, telle machine...
On va prendre un exemple très simple. Ouais. Imaginons qu'ils soient tous les deux pianistes, ouais. Qu'ils aient chacun un piano digital sur scène et qu'ils aient fait des concerts où d'un coup, ils jouent et en plein milieu, le piano s'arrête. Voilà.
Ouais, et ils ont connu ce genre de truc à ta...
Exactement. Donc forcément,
ah ouais, c'est chaud,
nous,
là,
on est la personne qui fabrique le piano. Donc, pour le musicien, son passif, c'est ton piano, oui, cool, mais il marchera jamais, parce que là, il marche, mais... Donc, voilà, ça nous a amené, du coup, à se blinder à 10 000%. Il y a plein d'autres paramètres aussi qui ont...
Alors, comment on se blinde rapidement, hein, mais c'est quoi, ça concerne les synchronisations des machines, les latences, les trucs comme ça, où là, on fait hyper attention, mais plein de machines, plein de trucs qu'il y a sur le coup, j'en sais rien. C'est...
En général, on en met le moins possible,
ah, okay.
Déjà, parce que qui dit une machine, dit un problème potentiel. Qui dit deux machines, multiplie le nombre de problèmes.
Loi de Murphy.
Voilà, donc forcément, nous, dès le départ, ça a été aussi un diagnostic de dire « Ok, vous nous avez donné finalement le meilleur challenge au monde, parce que nous, pour nous, c'est un levier de pouvoir vous dire « Ok, ça, vous voulez le faire, mais attention, parce que si on y va vraiment, il y a un risque que potentiellement, ça ramène des problèmes, etc. » Donc, on a pu aussi surfer sur cette vague-là de dire « Attention, vous voulez ça, 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 mais si vraiment on y va, on va se rajouter des problèmes. » Donc, on a un peu réussi finalement à lisser un peu les choses.
Un peu plus...
En fait, de garder ce qu'ils avaient toujours eu, c'est-à-dire un contrôleur en gros en stem qui leur permet en fait de... C'est 2 DGM en gros, d'agir en gros sur tous les stems qui sont audio, en termes d'effet, en termes de filtrage, de la manière en gros qu'on le ferait avec des CDJ classiques, mais sauf que... Enfin, avec des DGM, pardon, mais avec une vraie vision de plusieurs stems, et avec aussi des claviers autour qui du coup, eux, pareil, sont contrôlés du coup... Enfin, contrôlent directement ce qui se passe dans une session playback Ableton, dans laquelle on a réencodé en fait plein de sons de clavier, ce qui nous permettait aussi de pouvoir simuler le show. Notamment, on pense jamais à ce que c'est par exemple d'arriver en festival avec un kit de cette taille là quand on a 5-6 artistes qui s'enchaînent sur le même plateau. Forcément, on est obligé d'arriver et de pouvoir faire un test avec le son sans forcément avoir accès à tout le plateau. Donc de quelle manière on pouvait tester toute l'infrastructure sans monter le contrôleur. C'est aussi des choses qu'on a dû intégrer dans notre setup, de se dire, ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que si le setup, en gros, n'est pas branché, en gros, comme si on coupait la tête sans les bras, sans le corps, comment la tête peut quand même fonctionner et envoyer du son. Donc c'est un peu comme ça qu'on a essayé d'imaginer un peu tout le setup et d'imaginer un peu tous les plans de contingence et se dire, tiens, si demain le setup il est mort, est-ce qu'on peut continuer à faire le show?
En plus, on parlait des approches un peu hybrides, entre guillemets, pour dire c'est pas toujours noir et blanc, soit hyper programmé, soit hyper organique, etc.
Exactement.
Là, c'est un exemple typique du truc complètement hybride, où à la fois, ils balancent des parties préenregistrées, mais qui peuvent aussi filtrer, modifier, appliquer des effets. Ils jouent aussi quelques éléments, etc. Et tout ça doit fonctionner ensemble, quoi.
Exactement.
Ils peuvent faire des extensions de morceaux, genre si... Un des morceaux était prévu pour durer 3 minutes et que eux, en fait, ils s'enjaillent en plein milieu et décident de...
On peut prévoir de boucler, de jammer, des choses comme ça.
On peut tout faire. Très sincèrement, c'est très facile à faire. Il y a une réalité qui fait que ça ne se fait jamais. C'est qu'en général, quand un deal de prod est fait dans un festival, c'est à la minute près.
Ouais.
Et en gros, on peut pas se permettre même un DJ set. En gros, tous les DJ sets sont... Je m'avance peut-être un peu trop, mais en général, c'est timé vraiment à la minute. Parce que tout simplement, on peut pas se permettre d'avoir un offset ou un décalage. Mmh. Parce que sur des gros festivals avec des grosses têtes d'affiches, la minute coûte très très cher. Mmh.
C'est triste, hein, quand même.
C'est ça, mais pour certains formats, ils peuvent faire une version différente du live pour telle ou telle salle.
Exactement.
J'imagine qu'ils ont pas fait exactement le même live pour l'accord.
Et puis c'est évolutif, ouais, et puis ça peut jouer. Après voilà, tout est possible. C'est vrai que là, dans ce cahier des charges précis, c'était pas le but. Le but était d'avoir une écriture quand même créée, optimisée, et surtout rédigée pour que la lumière aussi qui est jouée en live...
Qui est la star du show.
Mmh. Ah ouais. Même, tout est joué en live, il n'y a pas de synchronisation. Donc forcément, ça amène une espèce de rigueur aussi d'exécution de la partition.
Attends, ça c'est génial. Tu nous dis donc, autant la partie sonore... Elle est vachement très programmée, etc. Mais par contre,
pas
les lumières. C'est incroyable.
Elle est programmée
truc,
et elle est exécutée à la main.
Il y a un light jockey, quoi.
Ah, qui est le designer qui s'appelle Vincent Lérisson, Lewis. Et qui est un light jockey, on peut le dire.
LG. C'est fou, ça.
Il y a des longues anecdotes possibles, mais.
Il est sous NDA,
il veut pas trop raconter. Alors, peut-être pas avec Justice, je sais pas, ou quelqu'un.
On peut en trouver.
Et si, une galère, les gars. Xavier, toi, une galère sur une machine. Est-ce que par exemple, t'as déjà eu un artiste qui dit putain, Xavier, ton contrôleur, à un moment, il a pas marché. Ouais.
Est-ce que t'as du SAV? Est-ce que t'as des...
Ouais. Ouais. Alors du coup, j'essaye aussi de le bétonner en. Bon, pour les plus gros artistes, on a du spare. Donc on a une machine de rechange, ils peuvent le changer juste avant. C'est déjà arrivé ça. Par exemple, un clavier qui a un problème, bah tu prends le clavier de spare, tu le remplaces. Donc je fais en sorte que ce soit assez facile à faire avant un concert. Si ça arrive pendant, c'est plus compliqué, évidemment. C'est pas beaucoup arrivé, bien heureusement. Et sinon, je forme l'équipe technique des artistes ou les artistes eux-mêmes quand c'est des plus petites équipes à être capables de réparer eux-mêmes leur machine s'il y a un problème.
Oui, parce que pendant le transport, s'ils pètent un truc ou...
Ouais, ça arrive si t'as un transport en avion un peu trop violent ou en train et qu'en fait ton truc il a cassé, ça peut arriver.
Donc tu les accueilles à l'atelier, ensemble vous regardez, des trucs comme ça vraiment?
Ouais. Ou je remplace les pièces et on réfléchit au conditionnement aussi si c'est un truc qui a cassé en voyage, genre pourquoi. On essaie de comprendre, on remballe le produit dans la valise, quoi. Et surtout, ils ont un kit de maintenance, quoi, qui est toujours offert avec la machine, où t'as toutes les petites clés, vis, tournevis qu'il faut, toutes les parties électroniques en rechange, des boutons en rechange, tout ce qu'il faut pour la maintenir en vie le plus longtemps possible. C'est évidemment intéressant quand t'es à l'autre bout du monde, parce que je peux pas intervenir en 2-2.
Ouais.
Et on trouve toujours des solutions pour faire en sorte que, au final, le show fonctionne. Voilà, c'est vraiment le truc le plus important, quoi. C'est qu'à la fin, il puisse jouer.
Mmh. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait vis-à-vis du fait d'anticiper des problèmes et d'arriver à trouver des solutions.
Alors des parades pour tout prêt déjà. Okay.
Après, on en découvre tous les jours.
Ouais,
hein.
Alors justement, une galère, Romain. Une galère.
Bah, il veut absolument sa galère.
Ah bah oui, attends.
Galère. Je peux en trouver. Il y en a tellement. Le problème, c'est qu'il y a des filles toutes devant moi.
Est-ce que
t'as le droit de dire en fait.
Faut que j'arrête là.
Parce que ça devait être quand même quelque chose avec Mylène Farmer, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des couacs? Est-ce qu'il y a eu des trucs qui étaient compliqués, tu vois?
Avec Florent Pagny, je pense.
Avec Florent Pagny.
Non, mais finalement, on pose toujours la même question. Est-ce que sur les deux ordis, ça arrive que t'en as un qui s'arrête, etc. Moi, très sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé.
Ouais.
Je pense pour une raison très simple, qui est pour moi le cœur de ce qu'on fait et de ce qui définit finalement le rapport à l'exigence qu'on donne dans tout notre travail, c'est le fait de simplement vérifier les choses. À partir du moment où on dit que c'est bon, c'est qu'on a vérifié que c'était bon. Pour moi, c'est aussi simple que ça. On n'est pas meilleur que les autres. La seule différence, c'est quand on dit que c'est bon, on l'a vérifié. Donc, forcément, on essaye d'éviter l'amnésie aussi du fait de, dès qu'on est face à un problème, parce que bah, évidemment, quand on apprend, on est forcément face à des choses qu'on n'a pas pu voir arriver, parce que forcément, on ne les connaît pas. Et le fait de les noter, de les synthétiser, de les classer, d'en faire des gros tableaux, de faire des FAQ, et de se dire, ok, là, vis-à-vis de telle version de logiciel, j'ai eu tel bug, donc parce que machin, et d'essayer toujours de comprendre aussi
le problème. Et du rétex, quoi, vraiment, gestion de projet.
Mais en fait, finalement, c'est ce qui nous permet, en fait, de pas être face à des problèmes, en tout cas, qu'on pourrait éviter en interne.
Parce que ça peut être aussi simple que deux jours avant le concert, ah tiens, il y a une mise à jour de mon logiciel, je le fais et il y a un truc qui va plus marcher derrière pour le concert.
Il y a eu même des choses bien plus dramatiques que ça. Mais
Windows qui fait une update.
Il veut pas dire.
Non, gros. Moi, je sais que dès que, par exemple, Ableton lance un gros update, ouais. Nous, ça nous est arrivé à chaque fois qu'on ait un premier coup de fil, un deuxième, un troisième, un cinquième, et des projets qui nous appellent en panique en nous disant, ok, en fait, j'ai récupéré la session chez moi. J'ai fait un petit update, ils ont changé tout le mode de warp, etc. Et ben en fait, là, je dois faire mon show ce soir, comment je fais? Et là, souvent, on dit, bah, c'est soit on récupère ta session, on la reprogramme entièrement sur la version d'avant, ou des fois, on essaie de changer un peu le code de la session si on arrive à le faire, mais tout ça est très compliqué, et surtout, il n'y a jamais le temps pour pouvoir répondre à des problèmes, donc à chaque fois, c'est un peu une nouvelle aventure.
Ouais,
donc,
en fait, vous êtes tributaire des designers.
Alors,
de software.
Pareil, on ne l'est plus. Parce qu'on travaille d'une manière à mettre un cahier des charges au début d'une tournée, se dire on est sur telle machine, telle version, on ne la changera pas.
Ouais, okay.
Cette session ne sera
très fixe. Ouais. Ah ouais.
Mais parce qu'on est obligé, c'est finalement, encore une fois, c'est là où je dis que c'est le rapport à la vérification d'un process et de comment on décide de gérer cette chaîne de production qui nous rend en fait non vulnérables à ce genre de choses. Après, voilà, faut.
Vous avez dû vous blinder avec des avocats, je comprends,
Non, je connais pas mal d'artistes qui, tu sais, qui n'utilisent pas la dernière version de Ableton Live.
Ouais.
Ils utilisent deux ou trois versions avant.
Mais comme les OS sur Mac ou.
Ouais, c'est ça, voilà. Tu mets jamais à jour en fait, parce que sinon.
T'attends.
Alors c'est compliqué, hein.
T'attends, parce que après, on soit bien stable.
Si c'est pas cassé, il faut pas le réparer, tu vois. Donc.
Ouais.
Après, sur un OS d'ordinateur, on dit souvent que pour des questions de sécurité, etc., il faut quand même garder à jour.
Oui, mais en fait, la question, c'est ça, c'est l'OS d'ordinateur qui se met à jour pour une faille 0D sur ton navigateur internet, ou quand toi tu t'en sers pour une machine de concert, tu dis je m'en bats les couilles.
Tu fais que de la track, c'est pas connecté à internet, etc.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est. Mais effectivement, du coup, vous reposez quand même sur des OS du marché, quoi. Il n'y a pas de. T'as pas un Unix dédié.
Non, peut-être qu'un jour on le fera, en vrai.
Sinon, c'est du Windows, par exemple, ou du macOS.
Nous, on est sur macOS. Ouais. Après,
macOS, c'est
sur
un
Mac.
Peu plus stable.
Mais après, en fait, tout ça n'est que. Prendre en considération un outil, le maîtriser un peu dans sa globalité, pour pas dire à 100%, mais bon, on peut jamais tout connaître à 100% d'une machine, surtout en informatique aujourd'hui. Et après, juste de connaître un peu son fonctionnement et d'assurer juste qu'il y ait le moins de fuites possible.
Non, mais tu vois, par exemple, un Windows, Windows 11 aujourd'hui, moi, je m'en sers tous les jours. Hein. De temps en temps, je suis en stream et je me dis, tiens, pourquoi mon processeur il est en train de bourriner alors que littéralement je suis en train de rien faire et je me rends compte qu'il a lancé l'anti-malware machin que j'ai jamais demandé, qui est en train de me bouffer 4 cœurs sur les 12 du CPU, tu vois, et tu dis bah putain, ça arrive en concert, t'as tout ton truc qui se met à ramer.
Bah typiquement c'est des choses dont nous on fait super gaffe, c'est même dans tous les utilitaires qui vont se lancer sur un démarrage, etc.
Après, c'est vrai qu'on enlève tout.
On a écrit aussi des logiciels qui nous permettent de réinstaller un Mac de la manière dont il était, un genre de backup time machine. Mais sur des logiciels qu'on a créés nous, ne serait-ce que pour backuper un kit, réutiliser ce kit-là.
Un master, en fait.
Voilà, on a plein de solutions qu'on a développées en interne, qui soient à la fois software, des fois hardware aussi, où on développe aussi même des contrôleurs, en tout cas sur la partie plus intégration. Nous, la différence, c'est qu'on ne fait pas de design, comme Xavier. Donc c'est d'ailleurs
c'est dégueulasse.
C'est
pour ça qu'on n'est pas...
et que vous... Voilà, elles sont complémentaires.
Carrément.
Carrément, absolument.
Bon les gars, je rappelle, Romain Berguin, on peut alors vous proposer des solutions playback avec Playback Solutions justement. T'as aussi monté ton studio, Access Studio, Access Factory.
Alors Access Flow Studio.
Access Flow Studio,
qui est donc aussi un label,
ouais.
Qui est en train de naître, une boîte de production aussi, Access
ouais,
Factory,
c'est ça. Okay.
Qui a en fait pour but dans un premier temps de centraliser finalement toutes ces activités-là, qui soient à la fois l'encadrement d'un projet, de sa création jusqu'à sa partie tournée, opérationnelle et tout ça, de pouvoir aussi proposer, on va dire, à une production un encadrement un peu plus global que juste un prestataire, comme c'était le cas de Playback jusqu'à maintenant, de pouvoir notamment le faire comme on le fait sur pas mal de projets aujourd'hui avec des artistes qui sont de plus en plus indépendants, comme c'était le cas pour les albums, maintenant ils le sont aussi sur le live. Okay. Donc de pouvoir aussi répondre en fait à un ensemble de choses, que ce soit sur la partie créa, la partie touring, la partie accompagnement, répétition, audio, même jusqu'à la partie technique. Après voilà. Donc tout ça est un petit écosystème.
Et il y a un gros truc à venir là, des collaborations,
pas le droit
des grosses tournées, tu peux teaser souligné. Là un truc.
Je peux tout teaser, mais je ne peux rien dire.
Pas teaser quoi.
Donc
on sent quand même hein, que le, il y a dû y avoir des procès. Je comprends la sécurisation de l'ensemble. On sent le trauma.
Non mais il se passe des trucs, on s'en est pas. Après il y a voilà, l'équipe s'agrandit, on essaie de toujours rencontrer du monde aussi avec qui travailler, avec qui partager des choses.
Bien. Xavier, toi, avec Akin Toys, c'est quoi un peu le... Ah oui, Daz nettoie.
Il y avait des traces de doigts et tout. Ça, par exemple, on peut dire que c'est anti-ergonomique, le fait d'avoir des trucs qui marquent.
Je suis grave d'accord. Et sache que j'ai... Là, tu vois du transparent sur cette machine qui laisse des traces de doigts, parce que c'est ce que j'avais en stock. Il y a beaucoup d'artistes qui me demandent des trucs transparents et je suis en lutte pour leur dire qu'il faut arrêter parce que c'est
s'il ça vous
marque
plaît.
Beaucoup. Moi, je suis très fan du mat et le mat, il est trop bien, il est perdurable, il laisse pas de traces. Donc j'essaye et je peux. Mais par contre, c'est eux qui ont le choix final. Quoi, s'ils veulent du transparent, je leur mets du transparent. Ils le savent. Je leur livre les petites chiffonnettes qui vont avec, le bon produit antistatique. Voilà. Mais il faut se laver les mains toutes les 5 minutes. Moi, je pète un câble, je passe mon temps à me laver les mains sur ce truc. Et pourtant. Je laisse toujours des traces de doigts.
Et alors l'avenir avec Akin Toys ou d'ailleurs le présent, enfin c'est un peu tes gros projets. Est-ce que la boîte va évoluer? Est-ce que tu vas créer de nouvelles choses? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des trucs un peu dans les cartons, tu vois?
Ouais, non, moi je souhaite rester sur ce même format en tout cas entrepreneurial, donc être indépendant, bosser tout seul, mais bosser en réseau avec plein de gens, notamment Romain. Ouais. Donc là, on va, je pense, bosser beaucoup ces prochaines semaines, ces prochains mois pour faire des contrôleurs qui vont un peu plus loin. Techniquement.
Ça passe par quoi des contrôleurs qui vont plus loin? Est-ce que c'est par exemple l'intégration du MPE, des choses comme ça, ou pour avoir plus de paramètres encore dans les contrôleurs, pouvoir faire plus de choses?
Plus des trucs tournés vers le live, donc des retours d'informations, une meilleure connectivité, une meilleure stabilité pour la scène. Donc vraiment, on parle de modifications qui vont intéresser les pros qui font des grosses tournées. Mais voilà, sinon sur le design des machines, je vais continuer d'explorer des petits trucs aussi en termes de potards, de choses comme ça, aller un petit peu plus loin. Mais le...
Boutons Sanwa et des boutons Seimitsu, il faut.
Je suis toujours très fan de ce truc un peu vintage et je suis pas forcément à fond sur toutes les nouvelles technologies, donc ça m'étonnerait que ça soit des machines qui demain t'ingreront du MPE ou de l'IA ou que sais-je. Ouais. Je vais rester sur des trucs comme ça, très physique. J'aime beaucoup la mécanique, la physique, donc plutôt le toucher, voilà, la transportabilité aussi pour les plus petits artistes qui ont envie de voyager en train et qui ont envie d'avoir un beau setup. Comment on fait pour répondre à ces gens-là? C'est des questions qui m'intéressent beaucoup.
Et même si c'est pas ton métier à la base et qu'on a compris que c'est vraiment le design qui t'intéresse, physique entre guillemets, des machines qui génèrent du son, un jour c'est un truc qui pourrait te plaire, comme du design sonore, etc.
Pour être enfin un luthier numérique.
Tu fais bien de m'en parler parce que j'avais complètement zappé, mais c'est en cours. On est en train de faire des protos avec mon pote Alexis, l'artiste YMNK, qui lui fabrique ses propres synthés. Et on est en train de s'amuser, voilà, sans projection, ambition. On fait juste des tests parce que lui il est très bon en électronique, c'est un bon musicien et il m'a ramené des boîtes qui fonctionnent mais qui sont super moches. Et on s'est dit alors, ok,
c'est bon. C'est bon, vous connaissez, c'est parfait, chacun va amener son truc.
Il est très fort et du coup on s'est dit peut-être un truc à creuser pour déjà, on est en train de faire une petite boîte à rythme. Une petite boîte à rythme avec la possibilité de mettre les sons que tu veux dedans en open source, voilà, des trucs comme ça. Il a ensuite des petits synthés qui viennent dans la foulée. On va commencer à bosser là-dessus. Moi, un truc qu'on me demande beaucoup, c'est souvent les jeunes parents qui me disent « Quand est-ce que tu fais un petit truc pour les gosses ?» Et ça, c'est... Tout le monde en parle, en fait. Donc, je me dis « Bon, bah là, il va peut-être falloir commencer à faire quelque chose. »
J'ai vu, effectivement, un truc... Je sais pas à quel niveau c'est du bullshit, mais sur Insta, c'est dans les trucs quand tu scrolles là, genre de machine où tu places des, en fait, comme si t'avais des pistes, et tu places des trucs en bois ouais. à différents endroits et ça change en fait comme
ouais,
une drum machine.
Mais, ouais. ouais, c'est ça.
Et j'étais en mode ah ok, c'est ludique et tu peux faire des trucs avec des gamins. Ça a l'air costaud aussi.
Ouais, grave.
Mais ouais, c'est une bonne idée. Hein.
Ouais, il y a plein de trucs à faire. Je pense que ouais, les parents de cette génération là qui les soirées musique électronique les manquent un peu, il faut réussir à faire des trucs
une espèce d'hybride
qui se détache un peu de ce que nous on avait à l'époque, les vieilles flûtes horribles ou les trucs comme ça qui font un vacarme où là il faut s'assurer que ça sonne toujours plutôt bien, genre tu mets juste un potard pour le filtre et faire un drop et voilà.
Toute une nouvelle génération,
surtout
de
pas
DJ
de micro,
one button,
surtout pas de micro,
qu'on recommence avec des machines
exactement vraiment à 2 ans, tu sais,
mais c'est bien, c'est à dire que les cours de musique de dans 20 ans ils vont être incroyables.
Il y a des chances. Les gars, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était super cool.
Oh, c'était hyper intéressant. J'espère que nos auditeurs auront maintenant un aperçu un peu du live moderne, notamment d'un point de vue technique, un peu des grands défis et comment ça se passe aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'ai appris
les
plein de choses.
Les contingences.
Les contingences, absolument.
Et la redondance.
C'est très Romain Corr.
C'est donc ça qu'on retient.
Bah non, mais je pense que tous les gestionnaires de projet, là, on était à la limite des specs détaillés, specs fonctionnels, recettes et tout. Donc, c'est bien.
On peut donner des infos après.
Et puis d'ailleurs dans l'émission on va continuer ce qu'on n'a pas assez fait encore jusque là à explorer un peu le monde du live. On a notamment parlé des tourneurs, du métier de tourneur. C'est en train d'être organisé, ça. On devrait recevoir des gens pour parler comment ça se passe, comment on organise des tournées, etc. Un autre aspect encore de la musique live.
Incroyable, Salman, cette émission incroyable.
Mais oui. On a une tradition dans cette émission, c'est de terminer avec des recommandations musicales. C'est-à-dire chacun un morceau. On s'écoute un extrait, un truc, soit un de vos gros classiques, soit un truc que vous avez découvert récemment, vous l'avez saigné de fou, etc. On peut vous laisser quelques secondes si vous voulez, on peut commencer avec Daz, ou si vous avez déjà quelque chose en tête, on peut le mettre.
C'est un extrait, on peut écouter en entier?
Pas en entier, malheureusement, parce qu'en plus après on a des problèmes de droit, mais on met une minute trente à peu près.
Super. Moi j'ai un truc sans hésiter.
Ah ouais, bah vas-y, let's go.
Groupe, ce qui est bien avec ce job, c'est que parfois tu fais des belles rencontres musicales, et ça match musicalement, et donc j'ai bossé avec un groupe cet été dont je suis devenu très fan.
Ok.
C'est mon Deezer rap de l'année qui me l'a rappelé, parce que c'est l'artiste que j'ai le plus écouté de loin, c'est Dieter D.I. de TVR.
Okay.
Ils sont à la maroquinerie dans pas longtemps, mais je pense que quand tu diffuseras l'émission, ce sera déjà passé. Ils sont le 13 mars à la...
Ah oui.
Ah.
Mais c'était hyper bien.
Et alors, il y a un son que j'adore qui s'appelle Eternity, mais la partie la plus incroyable, c'est de la noise, elle est sur la fin.
Alors, donc, tu sais ce qu'on peut faire?
On peut mettre la partie finale.
C'est-à-dire que je peux mettre un peu au début, puis après on avance.
Ah, bah super.
On fait comme ça.
Super.
On commence un petit peu. Tu me fais un petit signe.
Vas-y. Eternity, dernier EP qu'ils ont sorti. Voilà. Ils sont super. C'est un trio. Il y a Rosa au chant. Et puis il y a deux guitaristes, bassistes, Samuel et François. Et au milieu, il y a une machine Akintoys avec un Moog intégré d'ailleurs.
Oh.
Et ouais, ça arrive. Un petit
desk.
Minitor. Minitant, bref.
Bon, on s'écoute un extrait. Choose anywhere to go. A better place than here for me to be with you. Learn everything to know. Flashes to disappear when breath hides a word behind. Can't you see the clouds moving differently? Either if you smile or if you breathe. Can't you see the grass swallowing the trees? Either if you lie down or if you kneel. Can't you see the mountains grieving the sea? Setting a path for eternity. Can't you see the ocean drawing the lines of the words you said running out of time? Can't you see the clouds moving differently? Either if you smile or if you breathe. Can't you see the grass swallowing the tree? Either if you lie down or if you kneel. Can't you see the mountains screaming the sea? Settling a path for eternity. J'avance un petit peu sur pour après.
C'est juste là.
C'est juste là. Ah bah je laisse. Ça.
Les lentilles, c'est juste après. Tu peux avancer un peu si tu veux.
Ouais, j'avance un petit peu, attends.
Yes. C'est chaud, hein. Gros sound design.
Sans le contraste avec la douceur du début.
J'adore les sons comme ça.
Romain, est-ce que t'as une idée?
Ben, carrément, un groupe que j'ai écouté pas mal récemment qui s'appelle Salt.
Mm-hmm. Ouais.
J'ai pas plus d'infos.
C'est français.
Mais alors, comment tu l'écris?
Salt. S-A-U-L-T.
Mm-hmm. Ok.
C'est ça.
Et
c'est
alors,
français.
C'est les Salt qu'on connaît. Vas-y, c'est quoi le morceau?
Alors, je crois que c'est le premier morceau de Chapter One.
Alors, attends.
C'est ce qu'on a.
En fait, c'est plutôt des albums que j'écoute un peu en entier, donc j'ai pas vraiment de titre.
Ça, c'est bien d'écouter les albums en entier.
Ouais, attends, ça fait du bien. Hein. Pas tous, hein. Il y a des albums qu'on a pas envie d'écouter en entier.
Oui, c'est
ce que je pensais, c'est pas les mêmes Salt.
Ah, mais c'est, non, c'est vrai.
Je crois pas que ce soit français, hein, ça m'étonne.
C'est pour ça, tu vois, je vérifiais avant.
S-A-U-L-T.
Oui. Et en fait, je crois que les deux s'écrivent de la même manière.
Bah oui, c'est ça. Oula.
Mais ce ne sont pas les mêmes. Et
les procès qui se perdent, moi, je vous le dis.
Et donc, oui, c'est leur dernier album qui s'appelle Chapter One.
Je crois que c'est ça.
Et t'as un morceau dessus en particulier que...
J'aime bien le premier titre, mais souvent je l'écoute en entier, donc je pourrais pas te dire quel titre, mais...
Eh ben, le premier titre, c'est God Protect Me From My Enemies.
Ouais, c'est pas français. Ça.
C'est très bien ça, c'est entraînant.
C'est très bien pour bosser.
Ouais, j'imagine. Et donc ils sont britanniques, Salt, et en fait ceux dont on parlait c'est les Salts avec un S.
Ah,
voilà la différence.
Qui sont français, marrant,
qu'on a vu en concert effectivement avec Thoman.
Tout à fait.
Et ben merci pour ces recos les gars. Daz.
Yes. Alors en ce moment moi je suis en train de redécouvrir la discographie de mes darons que j'ai braqué. Je vais pas vous mettre parce que j'ai récupéré donc des vinyles en veux-tu en voilà. Je vais pas vous mettre Wish You Were Here des Pink Floyd avec l'intro qui dure trois quarts d'heure. Donc à la place, on va plutôt partir sur Larry June.
Le truc des parents puis après Larry June.
Non, mais parce que vraiment, en fait, j'écoute que les vinyles que j'ai grattés chez mes darons et en fait, il y a que des trucs de 75 à.
Après, si tu mets du Pink Floyd, c'est très cool aussi. Hein.
Ouais, mais bon, ouais, tout le monde connaît. Alors que ce morceau-là. Donc Larry June qui a sorti un album d'ailleurs avec Currency et Alchemist que j'ai pas trouvé ouf.
Ah.
Voilà, donc incroyable. Normalement, j'adore tout ce qu'ils font. Là, j'étais pas chaud. En revanche, un morceau qui s'appelle Porches in Spanish sur l'album The Great Escape, que je trouve toujours. Comment détester Larry June finalement? Le mec te parle de bien-être, de développement personnel. Il est gentil. Good job, Larry. Franchement, balance la sauce. Hey. Yo, this shit dry, don't be calling my motherfucking phone either.
In the dope panel, just trying to make it home. Then you touch down safe, then find out your nigga gone. Son, 2 years old, still clutching on this pole. They hit my spot out at Antioch. I'm tucked at the Marriott. Put it in the Yish name. Tuck spot in Brisbane. Fled out to Mexico. Linking up with Jorge. About to make another play. Looking for a better deal. Water with the chlorophyll. Walking through with money feel. And we getting money still. They don't really see the grind. Invested in this shit. Ask David Ali. We copping titles indeed. You just copping the plea. I'm likely to be with something unique. I'm different, I'm sleek. I might cop the crib at Aspen, park the Jeep. We coming with that COD. It's blood in the streets. I'm thinking about these numbers all night. I really can't sleep. My mind calculate at a speed 1,000 degrees. You wouldn't believe all the shit that I seen.
Bon, on est quasi dans du drumless encore. Hein.
Bah, Alchemist à la prod, tu connais. Mmh. Mais c'est une vraie question que pose Larry June. Comment tu prononces Porsche en espagnol?
La marque Porsche.
Porsche,
Porsche.
Tu dis déjà Porsche.
Ouais, tu Porsche. Roules un peu le R déjà. Ouais,
bizarre. On n'a pas la réponse à la fin du morceau, je vous le dis. Voilà. Et toi, Salman, alors, qu'est-ce que tu recours?
Écoute, je vais mettre un classique.
Ça alors.
Je vais mettre un classique que j'ai réécouté dernièrement. Enfin, c'est un classique moderne puisque c'est du Roy Hargrove et c'est Strasbourg Saint-Denis qui est.
Ah, c'était très bien. C'est ce que t'écoutais la dernière fois.
Exactement.
Tout à fait.
Et qui est en fait, j'aime bien parce que c'est un standard. Enfin, c'est devenu un standard, mais c'est un standard moderne en fait qui a été dans toutes les jams, etc. Notamment à Paris, parce que ça fait référence à un quartier.
C'est-à-dire qu'on connaît pas le titre, mais quand on l'entend, on dit ah ben oui si.
Ah ben bah, c'est absolument imparable. C'est de la grande musique. On s'écoute ça.
Très bon choix.
Sympathique.
Pas mal, hein.
Sympathique. Ça aussi, c'est parfait pour travailler ou faire autre chose.
Et en vrai, ouais, pour travailler aussi, pas mal, Romain. Pour travailler. Pour préparer le prochain live de.
De on sait pas.
De je ne sais qui.
Ah, il veut pas dire toujours pas. Ou quand t'es en train de bricoler la prochaine machine de.
Bon, vraiment, encore merci à nouveau, Romain Berguin, Xavier Garcia.
Ouais.
Merci. C'était bien cool.
Merci à vous.
C'était très cool.
Et c'est Daz, merci beaucoup aussi. Merci à la bouclette, évidemment. Il y avait Sam, Iris et Flav aujourd'hui. Le trio historique, le trio, classique.
La team complète. La
absolument. Team. Un merci évidemment à Thoman, grâce à qui on fait cette émission. Les gars, vous avez déjà acheté des trucs chez Thoman.
Bien sûr.
Faites pas genre.
Non. Bien sûr. Évidemment.
Très bien. Et bien. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, on les remercie. Merci bien à sûr. Vous. Qui nous écoutaient, qui nous regardaient sur YouTube.
Merci pour vos commentaires, sans cesse plus constructifs.
Absolument. Et ils ont kiffé. Alors là, tu vois, l'épisode avec Chili Gonzalez est sorti. On a eu des beaux commentaires. Ça fait plaisir.
Alors, les commentaires sont positifs sur la vidéo YouTube.
Ouais.
En revanche, Chili, il fait un SAV de zinzin.
Ah oui, sur le Insta.
Sur les shorts. Parce qu'il faut que vous le sachiez.
Oui.
Salman, il va découper cette émission pour ne prendre qu'un morceau potentiellement problématique qui va nous attirer. Il y a Chili qui a, en fait, on a découpé un moment où il explique.
Sorti du contexte.
Il y a beaucoup de spontanéité avec les rappeurs et qu'ils retrouvent pas forcément dans les autres styles musicaux. Et évidemment, tous les autres styles musicaux tombent dans les commentaires en mode, moi aussi, je suis comme ça.
Alors, il y a un truc, par contre, dans ce commentaire, vas-y, pour que je m'y tiens un peu quand même. Il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font, c'est parce que tu n'es pas encore tombé sur les bons artistes. Comme moi, par exemple.
Oui, voilà,
viens en collab.
C'est ça.
Forcez pas les gars.
Regardez beaucoup les commentaires.
Pardon.
Vous regardez beaucoup les commentaires.
Ah bah tout. Je regarde tout. Hein, bien
en fait, depuis quelques émissions, la science du découpage et des propos potentiellement problématiques hors contexte fait qu'effectivement.
Non, en fait, c'est pas vrai.
Ça, il aime bien. Ah, t'aimes bien quand même prendre, tu sais, des trucs où les au moment où les gens disent quelque chose qui est assez, qui est peut-être parfois launché par une heure d'émission avant. Mais que tu n'as
sorti
pas
sorti du contexte.
Voilà.
En vrai, c'est pas si polémique ce qu'on aussi. Tu trouves qu'un
truc depuis l'épisode sur les éditions.
Il y a eu que cet épisode-là. Et en plus, je m'attendais vraiment pas à ça.
Ah bah ouais, bah personne.
Ils font tous semblant de jouer.
Justice. Ils ne font rien.
C'est des brûleurs. Non voilà. Donc
d'ailleurs, c'est Romain qui a tout joué en fait derrière.
Non mais ce qui est intéressant, c'est soirs. Que dans le cas de l'émission avec Chili, c'est lui qui fait le SAV.
Ouais.
De ses propres propos.
Il répond à tout le monde. Hein, ouais, ouais, franchement. Ouais. Bon, d'ailleurs, qu'on salue. Voilà. Il nous écoute régulièrement. Peut-être nous a-t-il écouté aussi. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. De toute façon. Nouveau sujet, nouveaux invités au pluriel, nouvel invité au singulier. Je ne sais pas, Daz.
Appropriation culturelle.
Ah non, pourquoi appropriation culturelle? Ah oui, le sujet.
Dire ça. Il cherche des problèmes.
Exactement.
À la semaine prochaine. À dans
ciao.
Ciao.